arrivé, et c'est ce qui explique un petit peu le retard. Veuillez, s'il vous plaît, tout d'abord noter que le mardi 27 septembre, nous recevons à nouveau ici le docteur Boris Cyrulnik. C'est une soirée ouverte au public qui est proposée par l'association les PEP 71, les pupilles de l'enseignement public qui fêteront ce jour-là leur centenaire. Le thème de la soirée qui a été choisi, c'est « Comment fonctionnent nos émotions ?» Donc, Boris Cyrulnik, le mardi 27 septembre prochain. Nous attirons aussi tout particulièrement, votre attention sur notre soirée du jeudi 13 octobre prochain. L'un des penseurs les plus brillants de notre époque, le philosophe André Comte-Sponville, normalien, agrégé de philo, membre du Comité national d'éthique, sera là avec le thème suivant « N'y a-t-il pas d'amour heureux ?» On peut vous donner une petite mise en bouche, plus précisément une mise en esprit, si vous voulez, avec cette définition de Jacques Lacan. « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Bon, écoutez, bon courage, vous méditez ça et on se retrouvera le 13 octobre pour parler de l'amour et du couple.
Pour une fois, c'est pas mal.
Je vous le dis aussi tout de suite, la Mandragore, la librairie, vous pourrez tout à l'heure, Monsieur André va vous dédicacer les livres, et les livres seront présents à la librairie pendant, je pense, à peu près une dizaine de jours. La Mandragore, rue des Tonneliers à Chalon. L'homme n'est pas satisfait de sa condition présente. Il déteste la mort qu'il voit venir. Il se demande quel sens peut bien avoir cette existence dans laquelle il se sent comme jeté. Il éprouve l'amertume de vivre et de voir disparaître tout ce qu'il aime. Le bonheur peut-il être pour un être de cette condition, dans ces conditions ? Mesdames et messieurs, nous partageons votre inquiétude, voire votre désarroi, pour une soirée dédiée au bonheur, ça commence mal. Et pourtant, bien sûr que les chemins que nous avons tous à suivre sont des chemins difficiles, avec beaucoup de pièges. Bien sûr que c'est Balzac qui a raison, quand il souligne, après beaucoup d'autres, que la vie n'est que la force qui résiste à la mort. Bien sûr que le bonheur, c'est d'abord l'absence de malheur. Bien sûr que c'est la bonne couche que remet Henri de Monterland quand il écrit, je cite, « La vie n'a qu'un sens, y être heureux, sinon elle perd son sens. » Bien sûr que l'art de vivre, c'est de trouver du bonheur et de l'espérance dans ce monde où le mal et la mort se mêlent inextricablement à la recherche du bonheur. Bien sûr qu'André Comte-Sponville montre une voie quand il nous dit qu'il faut aimer la vie pour qu'elle ait un sens, car c'est dans la mesure où nous l'aimons qu'elle nous donne du sens. Bien sûr que cette immense et fondamentale question du bonheur, c'est cela et d'autres choses encore. Et bien sûr, cher docteur André, que nous espérons ce soir sortir de cette salle plus heureux que nous y sommes entrés. En tout cas, mille merci, cher monsieur, d'être avec nous aujourd'hui. Voilà déjà un grand bonheur. C'est une chance, un honneur et une joie de vous recevoir ce soir à Chalon-sur-Saône. En exergue de votre intervention, vous ne serez pas surpris d'entendre cette interrogation du philosophe Gustave Thibon qui nous renvoie encore à une autre dimension, je cite, « Que faut-il souhaiter aux êtres qu'on aime ?» Le bonheur. Mais quelle espèce de bonheur et à quel niveau ? D'être heureux dans la médiocrité ou d'être trouvé digne d'un bonheur plus haut, mais presque toujours inaccessible. D'être rassasié du brouet des esclaves ou d'être affamé de la nourriture des dieux. Car la difficulté de trouver l'aliment grandit en fonction de la pureté de la faim.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes désolés pour le retard à démarrer notre soirée, mais j'espère que nous allons rattraper la petite frustration que ça aura provoqué éventuellement chez vous. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour votre présence ici ce soir. Merci à Monsieur le maire, à la municipalité de nous accueillir dans cette belle salle. Merci à Bernard Dubois pour l'organisation de cette soirée. Je suis ravi de retrouver votre région pour cette conférence sur un sujet que je vais aborder de façon plus prudente que la manière dont les philosophes que Bernard Dubois a cités ont utilisé. Je vais l'aborder sur un plan peut-être plus médical, plus scientifique, mais peut-être aussi plus accessible à notre regard quotidien. Donc, je vais rapidement me présenter. Je suis médecin psychiatre, donc médecin qui s'occupe des difficultés psychologiques, mais dans cette spécialité, je m'occupe plus particulièrement, plus seulement de soigner aujourd'hui, mais de travailler à ce qu'on appelle la prévention des rechutes. Autrement dit, à aider les personnes qui ont connu des problèmes d'anxiété, de stress ou de dépression, à ne pas rechuter régulièrement dans ce type de difficultés. C'est dans ce cadre que nous avons appris à travailler avec des techniques comme ce que nous appelons la psychologie positive, que je vais vous définir tout à l'heure, mais qui en gros, indirectement, on ne le formule pas comme ça, propose aux personnes d'apprendre à se rendre un petit peu plus heureuses qu'elles ne le seraient spontanément sans faire d'effort. Et pour nous, c'est des enjeux importants puisque ça permet aux personnes qu'on a à soigner de mieux résister aux vagues, aux attaques du stress, de l'anxiété et de la dépression, et vous verrez comment. Donc c'est un survol, un parcours, une présentation de cette discipline de la psychologie positive, qui est une façon prudente donc de s'attaquer à la psychologie du bonheur, que je vous invite ce soir. Alors je vous y invite, comme je vous le disais, de façon prudente, comme vous le rappelle ce petit dessin, et au fond, ce que je souhaite comme attitude de votre part, c'est que vous vous méfiez de moi. Vous disiez très bien, il nous montre des beaux graphiques, des belles études, mais finalement, dans tout ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce qui est utilisable dans mon cas particulier? Cette façon d'écouter et d'utiliser la conférence qui sera la plus précieuse, et nous pourrons en discuter un petit peu ensuite. Alors, voici un premier petit incident technique que nous allons résoudre, évidemment. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est à moi de le résoudre ou si je laisse nos techniciens, parce que ça, je ne sais pas résoudre ça.
Le bonheur,
c'est vraiment compliqué pour moi. Je peux essayer d'aller en arrière. Voilà, c'est merveilleux.
Ça marche.
Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Là, ça marche, ça marche. Il faut qu'on t'aille dans la prise.
Voilà, donc avant de démarrer, je voulais vous présenter 5 principes de psychologie positive, 5 principes importants. Le premier de ces principes, c'est que, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, il est possible à chaque être humain d'accroître son niveau de bien-être. Pendant assez longtemps, on pensait que c'était une histoire où nous avions peu de marge de manœuvre, qu'il y avait des joyeux et des grincheux, des optimistes et des pessimistes, et qu'on ne pouvait pas tellement modifier cette façon de réagir psychologiquement, émotionnellement aux événements de notre vie. Et puis, en travaillant à tout ça, en observant, en faisant des études à ce propos, on s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça. Et qu'en fait, parmi les facteurs qui influencent le niveau moyen de bonheur chez une personne donnée, eh bien, il y a 3 grandes familles d'influences qu'on peut retrouver. Là, vous voyez, vous avez en quelque sorte le camembert du bonheur. La partie bleue, 50% de ce qui nous prédispose, de ce qui nous oriente vers le fait de se sentir ou non heureux, ce sont effectivement des influences qui ne dépendent pas de nous. C'est la génétique. Il y a des différences entre les humains de nature génétique sur l'aptitude à ressentir facilement des émotions positives, à ce qu'elles soient durables, ou bien au contraire l'aptitude à ressentir très vite de l'inquiétude ou de la détresse face à des événements de vie qui, pour d'autres personnes, seront moins angoissants ou moins déprimants. Donc il y a ces inégalités d'un côté, et puis il y a évidemment notre histoire personnelle, ce que nous avons vécu en étant enfant, la manière dont nous avons été traités, la manière dont nous avons été éduqués, la manière dont nos propres parents se comportaient, les enfants regardent comment les parents réagissent par rapport au bonheur, ils regardent si leurs parents sont capables de savourer les bons moments ou si à chaque moment agréable ils se font du souci pour les difficultés qui vont arriver. Donc tout ceci met en place chez nous très tôt ce qu'on appelle des pilotes automatiques, c'est-à-dire nos réflexes spontanés. Et ces réflexes, c'est ce qui se passe en nous lorsque nous ne faisons pas d'efforts. Si vous ne faites pas d'efforts et que une bonne nouvelle ou un moment agréable arrive dans votre vie, comment réagissez-vous ? Est-ce que vous vous immergez pleinement, vous le savourez pleinement, ou est-ce que vous pensez déjà que ça va bientôt s'arrêter ? Voilà, c'est le dimanche midi, vous êtes avec des amis, c'est le week-end, il fait beau, il y a du bon vin dans les verres, un bon repas dans les assiettes, et est-ce que vous faites partie des gens qui pensent déjà au dimanche soir ou au lundi matin, ou est-ce que vous faites spontanément partie des gens qui ne pensent pas à ce qui va se passer ensuite, mais savourent ce qui leur est offert ? Tout ça, ce sont des différences très importantes d'automatisme, et ça s'est mis en place très très tôt, et ça pèse assez lourd, comme vous le voyez, environ 50%. Par contre, presque l'équivalent, autrement dit à peu près 40%, est lié à nos efforts. Et ce que montrent les études qu'on conduit sur ce thème, lorsqu'on cherche à voir quelles sont les influences chez chaque individu, conduisant à l'état de bonheur, de bien-être subjectif, comme on dit dans notre jargon, eh bien on s'aperçoit que tout de même, 40% de notre marge de manœuvre est liée à nos stratégies personnelles, quels efforts psychologiques nous faisons, quel type de regard nous nous efforçons de porter, quel type de comportement nous nous efforçons d'aborder. Et puis, il y a un petit 10% qui est lié aux circonstances qui nous entourent. Ça paraît très peu. On a parfois l'impression que ce qui nous arrive pèse beaucoup plus lourd que ça. Mais en réalité, sur la durée, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, ça n'est pas si important que cela, dans des conditions de vie normales, évidemment. Le second point que je voulais vous préciser avant de démarrer, c'est qu'on peut progresser donc en matière d'aptitude au bonheur, mais que ça ne tombe pas du ciel et qu'il ne suffit pas de le décider. C'est un apprentissage, comme d'autres apprentissages, qui va nécessiter un certain nombre d'efforts. Alors, les efforts ou l'apprentissage du bonheur ne sont certainement pas les plus douloureux, les plus compliqués à accomplir, mais pour autant, il y a un certain nombre de stratégies à adopter et à pratiquer régulièrement. Ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, dans notre discipline, en psychiatrie, en psychologie, on dispose aujourd'hui d'instruments pour observer le fonctionnement cérébral, toutes les techniques qu'on appelle d'imagerie cérébrale. Et on s'est aperçu, par exemple, que les psychothérapies, lorsqu'on fait une psychothérapie à quelqu'un et que cette psychothérapie fonctionne, eh bien, elle s'inscrit dans une réalité cérébrale, elle modifie le fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, on a des données montrant que l'entraînement régulier à certains exercices, comme ceux de psychologie positive, entraîne un phénomène de neuroplasticité, modifie le fonctionnement cérébral, tout comme l'exercice physique modifie la masse musculaire, la vascularisation, la souplesse articulaire. Eh bien, l'exercice psychologique, l'entraînement de l'esprit, va modifier les voies neurales ou le fonctionnement de notre cerveau. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important également. Le quatrième point, c'est que l'objectif, malgré son nom, l'objectif de la psychologie positive n'est pas que nous soyons toujours heureux ou toujours positifs. Il est que nous soyons capables de l'être lorsque la vie nous le permet. Et ça arrive beaucoup plus souvent que nous l'imaginons. Et c'est vrai que parfois, nous sommes dans des circonstances existentielles où nous pourrions savourer, nous pourrions nous réjouir, mais il y a quelque chose qui va retenir les enthousiasmes, les émotions positives, de l'ordre de l'anxiété, de l'ordre de la prudence, etc., etc. L'objectif de la psychologie positive, ce n'est pas de nous rendre heureux quand nous sommes en pleine adversité, mais c'est de nous permettre d'être heureux lorsqu'il est possible de l'être, et vous verrez une fois de plus que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Le point important, le dernier point, mais je vous le répéterai plusieurs fois dans la soirée, c'est que ces histoires sont anciennes. Ça fait très longtemps qu'on s'intéresse au bonheur. La philosophie grecque, la naissance même de la philosophie, est ancrée dans cette recherche du bonheur. Le but initial de la philosophie, c'était la recherche du bonheur, un certain type de bonheur, un bonheur individuel, mais aussi un bonheur citoyen. Et donc, ça n'est absolument pas nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que des gens comme moi, des médecins, des chercheurs, des scientifiques, se sont emparés de ce sujet parce qu'on s'est aperçu qu'il avait, entre autres, des conséquences très favorables sur la santé, sur l'équilibre psychologique. Et donc, c'est ce qui explique la quantité importante de recherches qui sont actuellement conduites sur ce thème. Deux dernières précisions avant de démarrer. La première, c'est que ce soir, je ne vais vous parler que de platitudes, ce que les philosophes appellent les grandes platitudes. C'est un des problèmes de la psychologie positive, c'est un des problèmes de tous les discours sur le bonheur, c'est que ce sont des choses que la plupart des humains savent déjà. Ça fait 2000 ans, je vous en parlais tout à l'heure, 2000 ans que nous savons ce dont nous avons besoin pour nous sentir heureux. Nous avons besoin d'avoir des amis, d'aimer, d'être aimé, d'être en contact avec la nature, d'avoir un minimum de sécurité matérielle, d'avoir de quoi manger, de quoi discuter. Voilà, toutes ces choses-là, de ne pas être en conflit avec les gens de notre entourage, toutes ces choses-là sont parfaitement connues depuis la nuit des temps. Nous le savons. Le problème qui se pose en psychologie positive, ce n'est absolument pas de savoir, mais de faire. La question, ce n'est pas ce que je sais, mais ce que je fais. Est-ce que tout ce que je vais vous dire ce soir, ces grandes platitudes dont parlent les philosophes, ces choses évidentes que nous avons tant de mal à appliquer quotidiennement à nos modes de vie, est-ce que tout ce dont je vais vous parler ce soir sont des stratégies, ce sera des stratégies que vous mettez en œuvre? C'est ça la vraie question à vous poser. Ce n'est pas « je le sais, je m'en doutais, c'est évident », c'est « est-ce que je le fais pour de vrai ?» Ça, c'est le premier point qui rend cette approche de la psychologie positive assez délicate, parce qu'on a l'impression que ce sont des évidences, mais des évidences à appliquer de manière rigoureuse et régulière deviennent moins évidentes tout à coup. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de petits efforts qui vont pouvoir être cumulés, être ajoutés, et que la psychologie positive marche un petit peu comme sur le modèle de la corde. Chacun des brins de la corde à lui tout seul est trop ténu pour exercer une action suffisamment franche, mais lorsqu'ils sont associés tous ensemble, alors ils se transforment en corde extrêmement solide. Et les efforts de psychologie positive, sourire, pardonner, penser aux bonnes choses de la journée quand on s'endort, etc., isolément peuvent paraître assez ténus, faibles et peu puissants, mais lorsqu'ils sont pratiqués de manière conjointe, alors ils peuvent faire bouger les choses de façon très nette, comme je vous le montrerai là encore tout à l'heure. Alors voici le plan que nous allons suivre ce soir. Donc on va d'abord réfléchir sur quelques définitions concernant la psychologie positive. Alors c'est compliqué évidemment de définir de façon très laconique ce concept, mais il y a trois choses importantes à dire. La première, c'est qu'on est une fois de plus dans une approche scientifique. On n'est plus dans la philosophie, dans le développement personnel, dans une théorie un petit peu babacool ou un peu fumeuse. On est dans une démarche assez prudente, mais assez rigoureuse également, qui est une démarche scientifique. Deuxièmement, on n'est pas dans la partie de la psychologie qui s'intéresse à ce qui ne va pas, aux inquiétudes, à l'angoisse, au stress. On s'intéresse à ce qui fonctionne bien chez tous les humains et qu'on va s'attacher à les aider à développer et à cultiver. La capacité à ressentir des émotions positives, elle est présente chez tout le monde. Par contre, elle n'est pas présente de la même façon. Chez certains, ça sera un paysage habituel de leur mental. Chez d'autres, ça sera beaucoup plus rare. L'enthousiasme, la confiance, la détente, etc. Mais ça existe chez tout le monde et on s'attache juste à aider chacun à développer ce type de compétences. Et la troisième chose, c'est qu'on est dans une pratique. On n'est pas dans un savoir, on est dans une pratique. Il faut bien comprendre que ça marche exactement comme pour le sport. Vous ne pouvez pas décider d'avoir plus de souffle, d'avoir plus de souplesse, d'avoir plus de force musculaire. Vous ne pouvez pas vous dire, allez, demain, je vais avoir plus de souffle. Pour obtenir ce résultat, vous allez courir régulièrement. Et de la même façon, on ne peut pas décider d'être plus cool, de prendre la vie du bon côté, de moins stresser, de moins s'énerver, d'être moins pessimiste. Ça ne se décide pas, ça se travaille. Et donc, les changements psychologiques, et ça c'est ce dont on s'aperçoit depuis quelque temps, obéissent aux mêmes règles que les changements physiques. On détermine un objectif, on voit par quels moyens on peut l'atteindre et on pratique de manière très régulière. Il n'y a pas d'autre solution pour changer. Le changement, comme on le montre parfois au cinéma, dans certains films, notamment entre les années 50 et 80, il y avait beaucoup de films qui montraient des transformations psychologiques de héros, où tout à coup, le héros ou l'héroïne se souvenait se remémorait un souvenir traumatisant de son enfance qui était enfoui dans son inconscient. Il y repensait, les larmes lui montaient aux yeux, il y avait des violons à l'arrière, de la musique d'arrière-plan, et il était guéri. Ça, je crois que j'ai jamais vu ça dans mes 40 ans de pratique de psychiatrie. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça serait vraiment génial. En général, on change par nos efforts répétés. Voilà ce qu'est la psychologie positive. Ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas tout d'abord, comme je vous le disais, un recyclage de la pensée positive. Vouloir toujours positiver, voir le bon côté de tout ce qui nous arrive, c'est très sympathique, mais ça ne marche pas forcément, et parfois ça enfonce les gens. Parfois ça enfonce les gens. À Sainte-Anne, lorsque nous avons testé ces programmes de psychologie positive, nous ne les proposions pas aux patients déprimés, parce qu'on les aurait encore plus déprimés. On attendait qu'ils soient guéris, et quand ils étaient en rémission, pour leur éviter de rechuter, on leur proposait ces programmes pour renforcer leur capacité à savourer l'existence, sachant que ça allait les rendre plus forts lorsque les vagues dépressives reviendraient. La psychologie positive ne doit pas non plus être un déni de réalité. Parfois, on a des situations qui ressemblent un petit peu à celle qui vous est présentée sur ce dessin, cette séance de coaching d'un chef gladiateur qui explique aux martyrs chrétiens que finalement, les lions, c'est juste des gros chats, rien de plus terrible, en gros. L'idée, là encore, de la psychologie positive, ça n'est pas de nous faire croire que finalement les problèmes ne sont pas si graves, si méchants que ça. Pourquoi pas, on peut parfois essayer de penser comme ça, mais l'idée de base, c'est de dire « Ok, les problèmes sont là. » Et être heureux, voir les choses positivement, ça n'est pas destiné à nous aider à penser que les problèmes ne sont pas importants ou sont inexistants. C'est juste destiné à nous donner l'énergie pour les affronter. Donc, voyez, on est en train d'évoluer dans cette réflexion sur le bonheur vers une position moins naïve qu'autrefois. L'idée, lorsqu'on est heureux, c'est pas de penser que le bonheur va agir de façon magique et va nous éviter la souffrance. Mais l'idée, c'est de se dire, grâce à ce bonheur, je fais le plein d'énergie pour affronter l'adversité et la souffrance qui reviendront dans la vie d'un être humain. On a toujours à affronter des difficultés et de la souffrance. Donc, être heureux ne signifie pas espérer qu'on n'y sera jamais confronté, mais se préparer à ne pas s'y noyer. Un troisième point important que je répète encore, donc, c'est qu'on est dans une démarche scientifique avec une littérature scientifique très importante, qu'il s'agisse d'une littérature donc, au niveau des recherches des pays anglo-saxons, une littérature francophone, on a vraiment un courant extrêmement fort depuis une dizaine d'années. Alors, concrètement, pourquoi les chercheurs, les soignants, les médecins s'intéressent à la psychologie positive, s'intéressent aux émotions positives? Il y a tout un tas d'explications, tout un tas de raisons. Vous avez invité un psychiatre, et les psychiatres sont comme les psychologues, ils aiment bien tester les gens, voir ce qu'ils ont dans la tête, comment ils fonctionnent. Alors, je vais vous faire passer un petit test. On va voter à main levée d'après cette diapositive. Alors, je vous explique le fonctionnement. En haut, vous avez cette figure. Tout le monde la voit à peu près. Il y a quelques personnes qui ne vont pas pouvoir jouer. Je suis désolé. En haut, vous avez cette figure qu'on va appeler la figure de référence. En bas à gauche et en bas à droite, vous avez deux figures de comparaison. Sans trop réfléchir, ne cherchez pas s'il y a un piège. Il y a un piège, mais laissez tomber, ne cherchez pas trop. Ne réfléchissez pas, votez spontanément. D'après vous, laquelle des deux figures, soit en bas à gauche, soit en bas à droite, ressemble le plus à celle du haut? Voilà, c'est la question. Alors, quels sont celles et ceux dans la salle qui disent, qui pensent, qui ressentent que la plus ressemblante avec celle du haut, c'est la figure en bas à gauche? Levez le bras s'il vous plaît. Waouh, ça ressemble à l'élection récente. Merci. Quels sont ceux qui pense que c'est plutôt celle-ci qui ressemble à la figure d'en haut. Ok, vous êtes en minorité, mais vous levez courageusement la main. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vais vous donner les résultats quand même. Vous allez être au courant des résultats de ce petit test que vous allez passer. Mais d'abord, je voudrais savoir, bien que je vous ai demandé de voter intuitivement, spontanément, maintenant que vous avez fait ce vote, comment vous l'expliquez ? Celles et ceux qui ont fait ce choix, par exemple, de voter pour la figure en bas à droite, pourquoi vous avez fait ce choix plutôt que l'autre ?
La forme est
carrée. Les carrés, voilà. Ce sont des carrés, ben, ça ressemble, je reste sur les carrés. Parfait. Mais alors, dans ce cas, pourquoi les 9 dixièmes de la salle ont fait l'autre choix ? La forme en triangle. Ah ben oui, c'est une autre explication. Les carrés sont disposés en triangle, donc je ne m'intéresse pas trop aux carrés, mais à la disposition en triangle, et je vote pour en bas à droite, donc en bas à gauche. Donc vous voyez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a juste deux stratégies différentes, une qui est focalisée sur les carrés, une qui est focalisée sur les triangles. Alors en vrai, quand on fait passer cette épreuve au laboratoire de psychologie des émotions, on ne fait pas tout à fait comme je viens de procéder. On va d'abord manipuler les émotions des personnes. Au lieu de le faire comme ça d'un coup, sans vous avoir manipulé, on va vous séparer en deux groupes, tirés au sort et comparables. Le premier groupe va subir une induction d'émotions positives. Donc, on va décider de vous mettre de bonne humeur, on va vous faire voir des films comiques, des extraits de films comiques, on va vous raconter des blagues, on va vous faire faire des petits jeux faciles où vous allez gagner facilement des petites sommes d'argent. Et puis on va vous faire passer un test de quotient intellectuel. Et quoi que vous répondiez, vous avez 143 et on va vous dire bravo, c'est bien, super cool, félicitations. Voilà, on a mis nos volontaires de bonne humeur. Si vous avez été tiré au sort de l'autre côté, ben ça va être l'inverse. On va vous faire écouter de la musique triste, vous montrer des extraits de films tristes. Vous allez faire les mêmes jeux que les autres, mais ils auront été réglés de façon à ce qu'il soit impossible de gagner. Donc vous n'allez jamais gagner alors que les copains à côté gagnent. Et puis le test de QI, ben, quoi que vous répondiez, vous aurez 82 de QI. Et on va vous dire, évidemment, c'est pas beaucoup, c'est sûr, c'est bon. On peut quand même survivre avec un tout petit QI. Hein. Donc vous avez mis les gens de moins bonne humeur. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on induit de la bonne humeur chez des volontaires, la plupart d'entre eux, trois quarts, 80% d'entre eux, vont choisir systématiquement cette figure. Donc ça veut dire que ce soir, 80% d'entre vous sont de bonne humeur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les organisateurs et pour moi, finalement, c'est mieux de parler à un public de bonne humeur. Par contre, lorsqu'on a mis les gens de mauvaise humeur, ils vont beaucoup plus volontiers voter pour la figure en bas à droite. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez voté pour la figure en bas à droite, il n'y a pas de souci, pour plein de raisons. D'abord, on a le droit, parfois, d'être de mauvaise humeur. La psychologie positive ne dit pas qu'il faut être toujours de bonne humeur. Elle dit juste que c'est bon de l'être chaque fois que la vie nous le permet et que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, etc. Mais être parfois inquiet, triste, agacé, gêné, c'est normal. Donc, vous avez peut-être aujourd'hui, à cet instant, des bonnes raisons, parce qu'il s'est passé telle ou telle chose dans votre journée, d'être sur un registre d'émotions négatives. Ou bien, votre cerveau n'est pas comme celui des autres. Un cerveau particulier qui voit les choses autrement, ça existe aussi. Ça n'est pas forcément une maladie ou une anomalie. Les gauchers sont câblés différemment par rapport au cerveau des droitiers. Ils ne sont pas malades pour autant. Donc peut-être que c'est votre cas, un cerveau qui ne fonctionne pas sur le même registre. En tout cas, comment expliquer qu'on observe systématiquement, il n'y a pas que dans cette étude qu'on a ce résultat-là, la chose suivante, quand les gens sont de bonne humeur, ils choisissent cette figure, et quand ils sont de mauvaise humeur, ils choisissent celle-là. Eh bien, on l'explique exactement par les mécanismes que vous m'avez décrits tout à l'heure. Quand je regarde cette figure, j'ai deux façons de la regarder. Soit je me focalise sur les détails, carré, je reste sur les carrés, soit je me focalise sur l'ensemble, l'impression générale, triangle, je reste sur les triangles. Alors,
non, là, c'est bon.
Là, je pense que ça vient de mon ordinateur qui cherche la Wi-Fi. Alors, attendez, ça, je sais faire. Navré, hein, tous ces détails techniques mettent votre patience en rude épreuve, mais ça redémarre, c'est ça l'essentiel. Vous voyez, ça c'est typique. C'est... Le problème, ce n'est pas l'adversité, c'est comment on réagit et comment on s'en sort. Là, c'est parfait, ça met un peu de piment dans la soirée. Donc, ce qu'on voit systématiquement, c'est que lorsque un humain, c'est vrai aussi pour les animaux, ressent des émotions positives, son attention, il y a un lien très fort entre émotion et attention. Son attention a tendance à s'ouvrir largement. Quand je suis sous l'influence des émotions positives, je vois les choses dans leur ensemble avec plus de recul. Par exemple, s'il m'arrive un ennui dans ma journée, je ne suis pas focalisé que sur l'ennui, mais je suis capable de contextualiser, de me dire « Ok, j'ai un pneu crevé, je me suis disputé avec mon conjoint, il y a eu des mauvaises nouvelles au boulot ». C'est la vie. Sur l'ensemble de ma vie, c'est normal que ça arrive. Il y a aussi des choses qui vont bien dans mon existence en ce moment. Donc, il y a un problème, mais il n'y a pas que le problème. Je suis capable de voir les choses de façon ouverte et large. Par contre, quand je vais mal, souvenez-vous, quand vous allez mal, les jours où vous allez mal, les jours où vous êtes stressé, inquiet, préoccupé, en colère, déprimé, notre attention se resserre sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui provoque les émotions négatives. On se focalise... On ressasse, on rumine. Émotion négative provoque focalisation de l'attention. Si j'ai très mal aux dents, très mal à la tête ou un gros souci, tout le reste se met à ne plus exister. Il n'y a plus que ce truc-là qui me préoccupe. Si je suis de mauvaise humeur et que quelqu'un avec qui je parle pendant une heure a une phrase déplacée, c'est cette phrase sur laquelle je vais me focaliser. Donc ce lien entre émotion négative et focalisation de l'attention est bien connu. Ça répond à des mécanismes de sélection naturelle. On a besoin des émotions négatives dans les situations où il y a des problèmes. Il faut que notre attention se focalise sur les dangers, sur les sources possibles de dangers. Mais on a aussi besoin des émotions positives lorsqu'il n'y a pas de danger, en tout cas lorsqu'on n'en perçoit pas, pour trouver des ressources. Donc au lieu de se focaliser sur c'est bizarre ce bruit, c'est bizarre cette odeur, c'est bizarre ces mouvements de buisson, est-ce qu'il n'y aurait pas un danger là derrière ? On ouvre son regard et on cherche les endroits pour se reposer, pour manger, pour faire des bonnes choses, les partenaires pour jouer ou pour avoir des rapports sexuels, etc. Donc ça, c'est un point central. Et donc, c'est un bénéfice des émotions positives. Et c'est pour ça que si on est toujours sur un registre d'anxiété ou de stress, on reste adapté pour résoudre les problèmes, pour faire face aux dangers. On est focalisé sans arrêt sur les problèmes ou les dangers qu'on va résoudre, mais... on n'arrive plus à voir tout ce qui va bien aussi autour de nous. Et on traverse l'existence en passant de problème en problème, de difficulté en difficulté. C'est la vie, une fois de plus, des gens stressés, anxieux ou déprimés. Alors qu'on a besoin aussi de moments où on est sur des registres d'émotions positives, où on voit notre vie dans son ensemble avec également ses bons côtés. Donc ces travaux sont très très classiques, ils ont été reproduits plusieurs fois, voilà, je ne vais pas trop insister, mais ça c'est un truc très central. Globalement, les émotions positives ont beaucoup d'impact sur notre fonctionnement cérébral. Par exemple, elles accélèrent souvent les processus de réflexion. Si je vous dis quel est l'adjectif qui peut fonctionner avec ces trois mots, humour, marché et nuit, vous me répondez noir. Ah, très bonne humeur. Humour noir, marché noir, nuit noire. Plus vous mettez les gens de bonne humeur, plus vite ils vont trouver la réponse. Plus vous avez stressé ou attristé, plus ils vont mettre de temps à trouver ce type de réponse. Donc quand vous voulez faire des ateliers de créativité, de brainstorming, traitez bien les gens, mettez-les de bonne humeur, ils seront beaucoup plus créatifs. Ça c'est important parce que c'est des travaux récents de psychologie positive qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait à un moment donné, qui était que c'est le stress qui provoque le maximum de réactivité, d'adaptabilité, de créativité. En fait, ça n'est vrai que dans des conditions assez limitées et assez précises. Une autre conséquence des émotions, en général, c'est qu'elles nous font réagir différemment aux situations d'incertitude. En général, le cerveau humain n'aime pas l'incertitude et il a tendance à imaginer des solutions. À la place des situations d'incertitude, il préfère des certitudes. Et donc, on se sert de cette tendance pour faire passer des épreuves comme celle-ci. On met les volontaires face à des mots incomplets auxquels on a retiré des lettres, et puis on induit des émotions. Certains, on les met de bonne humeur, certains, on les met de mauvaise humeur, et on regarde quel type de mots ils vont trouver. Si vous induisez de la mauvaise humeur chez vos volontaires, eh bien, vous avez des chances importantes que les mots qu'ils vont trouver à partir des lettres manquantes soit des mots à connotation négative. Si par contre, on vous avait mis de bonne humeur, qu'est-ce que vous auriez pu trouver ?
Chemin.
Chemin. Mot. Ou copain, oui. Et là ? Miracle, effectivement. Donc, là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas que notre intelligence, la partie rationnelle de notre cerveau qui nous permet de répondre aux situations d'incertitude, de créer des scénarios. Il y a aussi tout l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Et une fois de plus, c'est un des problèmes que nous rencontrons chez nos patients anxieux, par exemple, qui sont toujours habités par des émotions négatives et donc qui, face à l'incertitude, vont systématiquement imaginer le pire, ne pas seulement voir les problèmes ou les amplifier ou les ruminer, mais les chercher systématiquement, les chercher. Et quand on cherche des problèmes, il y en a toujours, évidemment. Voilà, ça, c'est des études, on va passer. Un autre point très, très, très important concernant les conséquences de notre état émotionnel, et plus spécifiquement des émotions positives, puisque c'est de celles-ci qu'on parle ce soir, c'est l'impact et la relation qu'elles entretiennent avec le lien social, avec les relations que nous avons avec les autres humains. Depuis très longtemps, on a montré la chose suivante. On a montré que lorsqu'on induisait des émotions positives chez des humains, des volontaires au laboratoire, eh bien, ceux-ci, ultérieurement, avaient davantage de ce qu'on appelle des comportements proactifs. Ils vont davantage vers les autres personnes, ils aident davantage les autres personnes. Alors, c'est des études très, très anciennes qui étaient mises en place avec des protocoles assez simples. Donc, vous faites venir vos volontaires au laboratoire de psychologie, même histoire, toujours pareil, la moitié d'entre eux tirés au sort est mise dans un état émotionnel positif, l'autre dans un état émotionnel négatif, douloureux, etc. Et puis vous leur dites, voilà, c'est terminé, merci beaucoup, vous pouvez rentrer chez vous. Donc les gens sortent, et au moment où ils sont dans le couloir, quittant le laboratoire, ils croisent quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est un des étudiants du labo qui fait ça toute l'après-midi. C'est quelqu'un qui passe avec des boîtes, comme ça, des piles de dossiers, qui trébuche et qui renverse tout devant le cobaye dont vous venez de manipuler les émotions. Et ce que vous regardez, la variable que vous étudiez, c'est qui va aider ? Est-ce que majoritairement ceux qui vont aider seront plutôt ceux qui sont de bonne humeur ou plutôt ceux qui sont de mauvaise humeur ? Et ce qu'on voit, là encore, ce qui va un peu à l'encontre de certaines idées qu'on avait autrefois, c'est que plus les gens ont été mis de bonne humeur, plus vite ils vont aider, plus nombreux ils sont à aider. Alors qu'à un moment donné, on disait le bonheur, ça rend égoïste, les gens ne s'occupent pas des autres. En fait, quand on fait des recherches sur ça, c'est l'inverse. Et c'est logique. Souvenez-vous de ce qu'on vient de voir par rapport au lien entre émotion et attention. Plus je vais bien, plus je regarde autour de moi. Si je vais mal, je suis focalisé sur mes difficultés, mes souffrances et mes problèmes. Ces travaux ont été largement répliqués. Vous savez, quand on fait de la recherche, il faut faire une première découverte, mais il faut aussi que d'autres équipes retrouvent à peu près les mêmes résultats. Sinon, ça veut dire qu'il y a eu un biais. Ces travaux ont été largement répliqués. Par exemple, l'équipe de Rebecca Shanklin, qui est professeure de psychologie sociale à Grenoble, c'est la nouvelle génération des chercheurs en psychologie positive, a fait un peu la même chose. Ils se sont installés dans une rue passante de Grenoble, avec une petite camionnette, je crois, et ils invitaient les personnes à monter dans la camionnette pour remplir des tests psychologiques. Pendant 10 minutes, vous remplissiez des questionnaires. Et l'accroche, c'était « Nous faisons une grande étude sur le moral des Français. Donc, prêtez-nous, offrez-nous 10 minutes de votre temps et on vous donnera 10 euros en échange pour vous dédommager. Bon, » Donc, les gens montaient, remplissaient des questionnaires, qui étaient bien des questionnaires sur leur état moral. Est-ce qu'ils étaient optimistes ? Est-ce qu'ils se sentaient heureux ? Au contraire, est-ce qu'ils étaient inquiets ? Bon. Mais à part que là, ce qu'on mesurait, ce n'était pas leurs émotions en tant que Français, c'était les leurs, leurs émotions en tant que personnes. Et quand ils ressortaient, on leur donnait les 10 euros, et au moment où ils s'apprêtaient à partir, un autre chercheur en blouse du laboratoire et tout les attrapait, leur disait oh, « Vous avez fait l'expérience, merci beaucoup, c'est gentil de nous aider dans nos travaux, on vous a bien donné les 10 euros, c'est génial, très bien, ouf. » Alors, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous pouvez nous reverser cet argent, une partie de cet argent, pour notre fonds de recherche, pour les pays en voie de développement, qui n'ont pas assez de fonds pour la psychologie, etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Et là encore, on regardait qui donnait de l'argent et combien, selon l'état émotionnel qu'on avait mesuré tranquillement avec des tonnes de questionnaires dans les 10 minutes précédentes, et on retrouvait la même chose. Donc aujourd'hui, on sait que ces émotions positives sont vraiment importantes dans les groupes sociaux. Ce sont elles qui entraînent des comportements mutuels de bienveillance, d'assistance, de soutien, d'empathie, d'aide. Ça ne veut pas dire que quand on est de mauvaise humeur, on est incapable d'aider autrui, ou de comprendre autrui, ou d'aller vers autrui. Ça veut juste dire qu'on le fait moins spontanément, moins facilement, qu'on se rend moins compte des besoins de l'autre quand on souffre, que quand on ne souffre pas, et encore plus quand on est heureux et quand on va bien. Et ce qui est fascinant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous voyez, les émotions positives facilitent le fait d'aller vers les autres et de les aider, mais inversement, chaque fois qu'on aide, chaque fois qu'on va vers les autres, chaque fois qu'on rend service, ça nous rend un petit peu plus heureux. Il y a comme un cercle vertueux, une récompense inconsciente. En général, on ne le fait pas pour ça. On ne dit pas, ah, tiens, je vais aider quelqu'un, je vais me sentir plus heureux aujourd'hui. Mais c'est comme ça que ça marche et c'est très bien fait. C'est comme le sexe. C'est comme la sexualité. Chaque fois que dans l'espèce humaine, un comportement est coûteux, demande un investissement en énergie, il faut qu'il soit récompensé. Sinon, il n'y a aucune raison de se reproduire. Avoir des rapports sexuels, c'est fatigant. Il faut mettre de l'énergie, soit pour trouver le partenaire, soit pour accomplir l'acte sexuel. Bon. Et donc, au bout d'un moment, on arrêterait de le faire si on n'était pas récompensé par le plaisir. Et le plaisir sexuel est placé dans notre cerveau, les circuits de la récompense et du plaisir, pour nous inciter à recommencer. C'est vital, pas pour nous, mais pour l'espèce. S'il n'y avait pas ce petit mécanisme niché dans notre cerveau, nous aurions disparu depuis longtemps, et tous les animaux dont la reproduction est basée sur ce système-là. L'altruisme, la bienveillance fonctionnent de la même façon. Nous sommes d'une espèce sociale, l'homme est un animal social, il ne peut pas survivre de manière isolée, il a besoin d'appartenir à des groupes et que ces groupes soient fonctionnels, soient solidaires, qu'on soit solidaires les uns avec les autres. Et donc, c'est pour ça qu'au cœur de notre cerveau sont nichés ces circuits de la récompense qui font que quand on aide, quand on donne, quand on partage, quand on soutient, eh bien, c'est plutôt agréable, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la satisfaction plus ou moins inconsciente, plus ou moins spectaculaire. C'est une nourriture pour notre bien-être. Et c'est pour ça que globalement, tous ces comportements d'entraide, d'altruisme continuent de fonctionner malgré l'image que renvoient parfois les médias d'une société violente, égoïste, individualiste. Notre société ne pourrait pas continuer si ces comportements violents, égoïstes ou individualistes devenaient majoritaires. Pour l'instant, ils sont très largement minoritaires. On voit ça à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles, les histoires par exemple de quand il y a eu les ouragans là, sur la Louisiane, etc. Les médias ont fait leur gros titre avec les violences, les pillages, etc. Mais sur le terrain, tous les chercheurs qui étaient là, toutes les personnes qui étaient sur le terrain, ont vu aussi que la majorité des comportements étaient des comportements d'entraide et non pas de pillage, de violence ou d'égoïsme. Voilà, donc tout ça est assez bien fichu et entraîne des conséquences favorables. Les humains sont très sensibles aux comportements positifs, aux émotions positives et ont tendance spontanément à les apprécier et les récompenser. Voilà, ça on va passer, l'aspect contagion du bonheur, mais c'est très classique aussi. Ce qu'il vous faut savoir, et c'est un argument pour encourager les entreprises, les administrations, tous les groupes humains à promouvoir ces attitudes, c'est que et la psychologie positive, c'est que les émotions sont contagieuses. Si je suis de mauvaise humeur, je vais contaminer par ma mauvaise humeur les gens autour de moi. Mais si je suis de bonne humeur, je vais contaminer par ma bonne humeur les personnes autour de moi. Ça, on a des études étonnantes qui montrent que l'effet est très très durable dans le temps. Alors, un autre aspect fait que nous nous sommes beaucoup intéressés en médecine et nous intéressons beaucoup aux émotions, c'est qu'elles ont un impact sur la santé. Alors, il y a plusieurs familles de recherches, je vais vous présenter deux ou trois d'entre elles. Il y a des recherches à court terme qui étudient ce que provoque chez chacun de nous une modification de notre état émotionnel en bien ou en moins bien. Par exemple, dans cette recherche, Barbara Fredrickson avait fait venir à son laboratoire des volontaires pour travailler sur les émotions. Donc elle les avait appareillés, elle leur avait mis, vous voyez, c'est les petits dessins de la colonne de gauche, un électrocardiogramme qui mesurait leur rythme cardiaque, la variabilité de ce rythme cardiaque. Et comme vous le savez, notre cœur est sensible aux émotions. Donc, lorsqu'on est stressé, ça perturbe notre rythme cardiaque. Et c'était ce qui se passait dans un premier temps. On stressait les volontaires, on leur faisait subir un stress en labo. Là, je crois que c'était un stress de calcul mental avec des sommes d'argent à gagner ou non. C'est-à-dire, elle demandait aux volontaires, elle disait, voilà, vous pouvez gagner $300 en 3 minutes, il suffit de faire 10 soustractions sans vous tromper, par calcul mental. Et le problème, c'est que les soustractions, c'était 893 782 moins 137 843, et puis voilà, 10 en 3 minutes, ça ne marchait pas, et c'était énervant pour les gens. Ils avaient cru qu'ils avaient les $300, et puis ils ne les avaient pas finalement. Donc, tous les volontaires sont stressés, leur rythme cardiaque est accéléré. Bref. On les sépare en 4 groupes tirés au sort. Chacun des volontaires qui a été au préalable stressé garde un balayage pour mesurer le rythme cardiaque et on le met dans une petite salle d'attente tranquille, on lui passe un film vidéo. On lui dit, voilà, reposez-vous, excusez-nous, on vous a un peu stressé, asseyez-vous là 3 minutes, vous avez une petite vidéo à regarder, puis on vous revoit dans 3 minutes. Les vidéos des 4 groupes étaient différentes. Le premier groupe voyait un film comique, donc on induisait des émotions positives, de joie, d'hilarité. Le deuxième groupe voyait un film avec des beaux paysages, vue d'avion, enfin bon. Donc là on induisait des émotions positives, d'apaisement, d'admiration, etc. Le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe contrôle, il regardait un film qui était conçu pour n'induire aucune émotion. Des formes géométriques qui se déplaçaient lentement, sans aucune signification. Et le quatrième groupe, c'était le groupe qui avait été tiré au sort pour ressentir, malheureusement pour lui, des émotions négatives. Donc, c'était une visite de cimetière avec une musique triste et des commentaires sur le fait qu'on allait tous mourir bientôt. Comme ça. La variable qui était étudiée, c'était quel va être l'impact de ces petits films, selon le type d'émotion qu'ils induisent, sur la rapidité de retour à la normale, la rapidité de récupération cardiaque. Donc on avait élevé chez tous les volontaires le rythme cardiaque de 20, 30, 40% et on mesurait le temps qu'il fallait au cœur pour reprendre ses battements, la régularité de ses battements d'avant le stress. Plus les barres noires sont courtes, plus ça veut dire que le temps pour le retour à la normale a été court. Plus elles sont longues, plus ça veut dire que le temps du retour à la normale cardiaque après le stress a été long. Et ce que vous voyez, c'est que dans le groupe contrôle, qui est la référence, il faut, disons, 3 minutes pour que le cœur retrouve ses battements d'avant l'épreuve de stress. On voit que si, après le stress, vous avez reçu une induction d'émotions positives, ça raccourcit le temps de retour à la normale, il y a un effet réparateur. Et que par contre, si après le stress, vous recevez une deuxième dose d'émotions négatives, ça rallonge le temps de retour à la normale. Grande platitude. Je ne pense pas que ces résultats vous surprennent. Si j'ai un pépin qui induit des émotions négatives et qu'un autre événement induit plutôt des émotions positives, cet événement me fait du bien, non seulement psychologiquement, mais aussi physiquement, à répare les effets physiques, physiologiques du stress. Et si après un stress, j'ai un truc qui me rend triste, encore une autre source d'émotions négatives, ça aggrave les effets psychologiques et physiques du stress. Okay. La vraie question, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas est-ce que je le sais, mais est-ce que je le fais. Autrement dit, quand dans ma vie, j'ai des soucis, j'ai des ennuis, des choses qui me préoccupent ou qui me stressent, et que je ne peux pas régler tout de suite, parce que, évidemment, les soucis que je peux régler immédiatement, si mon souci c'est un caillou dans la chaussure, c'est pas la peine que je me dise psychologie positive, c'est pas grave, respire, vois tout le reste de ta vie, le caillou ça va, mais l'autre pied est impeccable, et puis bon, je m'arrête et j'enlève le caillou. Bon. Mais c'est assez rare dans notre vie que les problèmes puissent être réglés tout de suite. En général, ce qui nous soucie, c'est des problèmes pour lesquels je ne peux pas agir immédiatement. La santé d'un proche ou la mienne, la scolarité de mes enfants, des soucis professionnels, l'état de la France, etc., etc. Donc, je peux faire des petits trucs dans l'immédiat, mais le problème sera toujours là. Donc, quand j'ai un problème dans ma vie, est-ce que, une fois que j'ai vu s'il y avait quelque chose à faire ou non, je suis capable de me dire, ok, maintenant, si tu gardes ce stress, si tu continues à ressasser ça, tu vas continuer à te faire du mal physiquement, donc fais-toi du bien maintenant. Répare-toi, remets-toi d'aplomb, fais quelque chose qui te console, qui te répare, qui t'est agréable. Eh bien ça, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce qu'on a tendance à rester accroché à ce qui nous préoccupe et avoir beaucoup de mal à le lâcher pour nous dire « Ok, tu peux rien faire de plus, tu as fait ce que tu pouvais faire, maintenant fais-toi du bien, récupère, retape-toi ». C'est exactement ça la difficulté de la psychologie positive. On voit bien que continuer à ressasser n'est pas la bonne solution, mais on ne s'est pas assez entraîné à lâcher ce qui nous préoccupe pour aller vers ce qui est bon, doux et réparateur dans notre vie. C'est un entraînement, comme l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure, comment avoir plus de souffle en courant. Études à court terme. Évidemment, on s'est posé la question aussi de savoir si sur le long terme, ces effets à court terme étaient cumulatifs et avaient aussi un impact. Alors la réponse est oui. Une des études les plus célèbres qui a été conduite et qui a confirmé ça, mais il y en a eu bien d'autres aussi, c'est une étude qui s'appelle, c'est une étude américaine, qui s'appelait Nun Study, l'étude des bonnes sœurs. Là, vous avez une bonne sœur qui s'appelle Sœur Anne, qui a 101 ans au moment de la photo, et après cette étude, les bonnes sœurs de ce couvent sont devenues très célèbres aux États-Unis. Donc, elles passaient dans les émissions de télé. Et là, elle est la marraine d'un tournoi de basket universitaire, etc. Cette étude avait été construite de la façon suivante. Les chercheurs s'étaient intéressés à cette communauté religieuse de bonnes sœurs. Alors, on s'intéresse souvent aux communautés religieuses en psychologie de la santé parce qu'elles sont très faciles à suivre sur plusieurs décennies. Il n'y a pas de turnover, quoi. Les gens ne déménagent pas tout le temps, restent dans le monastère ou dans le couvent, et c'est impeccable, ils y rentrent à 20 ans, puis ils restent jusqu'au cimetière. Donc, on a le suivi médical, la longévité. Et donc, ils étaient allés dans ce couvent parce que, il était à côté de leur université, et puis aussi, depuis le début du XXe siècle, en tout cas, les mères supérieures demandaient aux candidates qui souhaitaient intégrer la communauté une lettre de motivation. Et toutes ces lettres de motivation avaient été archivées. Donc les chercheurs ont pris ces lettres dans lesquelles on demandait aux candidates bonnes sœurs de raconter leur vie et pourquoi elles voulaient venir là. Et ils les ont passées à un petit logiciel d'analyse très simple qui était un logiciel qui compte le nombre d'adjectifs exprimant des émotions qui sont présents dans votre discours ou dans la lettre. Donc, par exemple, si vous écrivez dans la lettre « Je suis venu au monde le 3 janvier 1904 », 0 point. Si vous écrivez « J'ai eu la chance de venir au monde le 3 janvier 1904 », 1 point. C'était aussi bête que ça, mais à la sortie, donc, les chercheurs avaient à peu près 800 lettres de bonnes sœurs avec des extrêmes, des bonnes sœurs dont les lettres étaient saturées de mots exprimant des émotions positives, et des bonnes sœurs dont les lettres étaient très pauvres en mots exprimant des émotions positives. Donc ils ont comparé les groupes extrêmes, les quartiles extrêmes, les 25% de sœurs très positives dans leurs lettres, en faisant l'hypothèse que si elles étaient très positives au moment où elles avaient écrit la lettre, vers l'âge de 20 ans, elles étaient sans doute restées plutôt globalement positives, et inversement, ils les ont comparées avec celles qui étaient très peu positives. Et les résultats étaient assez spectaculaires, puisque, vous voyez, que le quartile le plus heureux, les 25% de bonnes sœurs qui utilisaient le plus de mots positifs dans leurs lettres, 90% d'entre elles étaient encore en vie à 85 ans, la moitié encore en vie à 94 ans, alors que les 25% de bonnes sœurs les moins heureuses, d'après leurs lettres, il n'y en avait que 34%, trois fois moins, qui étaient encore en vie à 85 ans, et 10%, cinq fois moins, à 94 ans. Donc ça, c'est des résultats assez spectaculaires. C'est rare qu'il y ait des ampleurs, des différences aussi fortes que ça. Mais ce ne sont pas des résultats isolés. Vous voyez, sur ce tableau, mais il y en a eu encore d'autres depuis, vous avez un récapitulatif des principales études qui ont été conduites sur ce registre-là. Donc, vous voyez, c'est des grands nombres de sujets. Là, les bonnes sœurs, elles étaient 678, presque 700. Mais il y a eu des études jusqu'à 20 000 sujets et suivies sur au moins 20 ans. Et les corrélations et les causalités sont systématiquement positives. Corrélation, c'est émotion positive associée à longévité, mais on s'est aperçu aussi, en étudiant de façon plus fine ces résultats, que ce n'était pas seulement une corrélation, une association de deux variables qui évoluent dans le même sens, mais une causalité. C'est-à-dire que la causalité la plus forte était dans le sens émotion vers santé, qui avait aussi une causalité inverse. Si je suis en bonne santé, ça facilite le fait d'avoir plus souvent des émotions positives que si je suis en mauvaise santé, où j'ai un peu plus de soucis. Mais l'impact le plus fort, c'est de l'autre côté. Plus je ressens souvent, fréquemment, durablement des émotions positives, plus c'est favorable pour ma santé. Favorable. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une garantie. C'est là où ces études sont à interpréter avec prudence. Aujourd'hui, en gros, ce qu'on pense en médecine, c'est la chose suivante. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre santé. Certains ne dépendent pas de nous. La génétique joue un rôle important. Des événements du passé qui ont pu nous arriver jouent un rôle important. Certains dépendent de nous. Que mangeons-nous ? Faisons-nous de l'exercice physique ? Et quelle est notre météo émotionnelle dominante ? Est-ce qu'on est très souvent préoccupé, triste, inquiet ? Est-ce qu'on est très souvent heureux, joyeux, etc. ? Parmi les facteurs qui dépendent de nous, à côté d'autres facteurs, activité physique, alimentation, les émotions jouent un rôle important, mais pas décisif. Vous pouvez très bien avoir très souvent des émotions positives, mais malheureusement avoir eu des problèmes au niveau génétique, avoir une mauvaise loterie génétique, une famille où il y a beaucoup, beaucoup de cas de tel ou tel cancer, ou avoir vécu dans un environnement très pollué, donc les émotions positives auront été un facteur atténuant, mais pas suffisant. Puis vous pouvez avoir beaucoup d'émotions négatives, mais avoir toutes les autres, beaucoup d'autres facteurs favorables. Donc, il n'y a pas que les émotions. Par contre, les émotions jouent un rôle important, puisque, ça on l'a étudié, c'est ce que ça s'appelle l'effet de taille, hein, effect size en anglais. C'est-à-dire, les statisticiens nous disent, voilà, on va montrer deux choses. D'abord, est-ce que les émotions jouent un rôle dans la santé ? Oui, non. Deuxièmement, quelle est l'intensité, l'ampleur de cette influence. Eh bien, l'ampleur de cette influence est quand même importante puisque c'est la même chose que le tabac en sens inverse. Vous savez que le tabac, c'est un très, très, très bon moyen pour abîmer sa santé, pour aggraver sa santé, raccourcir son espérance de vie. C'est impeccable. Il n'y a pratiquement pas mieux que le tabac pour attraper plein de maladies. Eh bien, les émotions positives ont un effet aussi puissant que le tabac, mais en sens inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas un effet anecdotique. Et donc, au passage, si vous êtes fumeur, il faut vraiment faire de la psychologie positive pour ramener votre risque à zéro. C'est au moins l'avantage. Alors, pour conclure sur ces histoires émotions positives et santé, il n'y a pas que les psys, il n'y a pas que les psychiatres, que les psychologues qui travaillent là-dessus. Les premiers même à avoir montré l'impact des émotions sur la santé, c'était les cardiologues. Ils l'avaient montré d'abord sur les émotions négatives. Ils avaient identifié dès la fin des années 50 qu'il y avait une émotion négative, enfin que tout était problématique, mais qu'une émotion négative était cardiotoxique, abîmait fortement le cœur. Laquelle, d'après vous ? La colère. Voilà. La colère, c'est extrêmement destructeur pour les coronaires. Même les colères qu'on exprime où on a l'impression qu'on se soulage. Si vous pouviez voir quand vous piquez des grosses colères une coronarographie, si vous pouviez voir les spasmes de vos coronaires, sans doute que ça vous calmerait rapidement. Donc, contrairement à ce que croient les grands colériques, même piquer une grosse colère n'est pas bon pour le cœur. C'est meilleur ou c'est moins mauvais qu'être très en colère et ne rien dire. Ça, le pire du pire, ça les cardiologues montrent parfaitement dans leurs études, c'est être toujours énervé, toujours en colère, toujours dans le ressentiment, toujours pas content, et ne rien oser dire, ne rien exprimer. Ça, c'est le cocktail le plus dangereux pour le cœur. Mais même les colères exprimées sont problématiques. Et inversement, beaucoup d'études de cardio montraient que les gens qui ressentaient souvent des émotions positives avaient un cœur en meilleur état, un cœur qui était mieux protégé du stress, notamment, que les personnes qui étaient dans la moyenne, ou encore pire, qui avaient des émotions négatives fréquentes. Un autre point dont je voudrais vous parler, c'est la question de l'équilibre émotionnel. Ça, c'est très important, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que les émotions négatives n'étaient pas une maladie, que c'était normal d'en ressentir de temps en temps, mais alors, quel est le dosage? Quel est le pourcentage, finalement, de moments où il faudrait, on peut se permettre d'être sous l'emprise des émotions négatives et pourcentage de moments où, idéalement, il faudrait être plutôt de bonne humeur sous l'emprise d'émotions positives? Alors, je vous rappelle ce credo de la psychologie positive, c'est inutile de toujours vouloir tout positiver. J'enfonce le clou parce que, vraiment, on peut faire du mal, même. Non seulement ça ne sert à rien, mais on peut faire du mal aux gens en les incitant à positiver quand ils en sont incapables. Dans nos vies, il y a plein de moments propices au bonheur, mais il y a aussi des moments où la question qui se pose, ce n'est pas celle du bonheur, mais celle de la survie, de la lutte contre l'adversité. Ok. Ce qui est important, c'est même de se dire que parfois, il ne faut pas positiver. Ça peut être dangereux. Par exemple, voyez, cette petite souris qui positive, sa rencontre avec le chat, ferait mieux de ne pas trop positiver. Mais ce qui est important aussi, c'est il ne faut pas croire qu'à ce moment-là, tout négativer est une meilleure solution, parce qu'à l'inverse, on a vu, les émotions négatives nous aident à détecter les dangers, donc on a besoin d'elles, mais les émotions positives nous aident à aller vers les ressources, à avoir un esprit de synthèse, un regard global, à trouver des ressources pour notre vie, et s'en priver peut nous poser problème. Donc, une fois de plus... Alors là... Non, là, c'est mon ordi, je crois. Désolé. Je recommence. Voilà. Donc, une fois de plus, où se situe le curseur ? Alors ça, on l'a étudié. Il y a une technique qui est largement utilisée par les chercheurs qui travaillent sur ce thème, qui est celle des prélèvements émotionnels. Ils vont mettre sur vos smartphones, pareil, ils recrutent des grands nombres de volontaires, et ils vous font charger sur votre smartphone, enfin c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, avant on avait d'autres appareils, une petite application qui, pendant un mois, va sonner, va faire un bip, 3-4 fois par jour, pendant un mois, jamais à la même heure. Et chaque fois qu'il y a un bip, vous devez cocher dans quel état émotionnel vous vous trouvez. Donc comme ça, à la fin du mois, on a tout un prélèvement de votre météo émotionnel. Et on peut dire, on a fait 400 prélèvements, et chez cette personne, dans 80% des cas, elle était de bonne humeur, 20% de mauvaise humeur, etc. Et donc, on va étudier des populations de gens entre guillemets normaux, qui ne présentent pas au moment de l'étude de troubles anxieux, dépressifs, etc. On étudie des populations de gens anxieux, on étudie des populations de gens déprimés, etc. Ce qu'on voit dans la plupart des études, c'est que chez les gens qui n'ont pas de troubles psychologiques particuliers, on a en général ce qu'on appelle le ratio de Losada. C'est-à-dire, les trois quarts du temps, ils ressentent des émotions positives. Ils sont détendus, confiants, joyeux, curieux, enthousiastes, intéressés, apaisés, amoureux, attendris, admiratifs, il y en a plein. Un quart du temps, ils sont plutôt sur des émotions négatives, inquiets, soucieux, honteux, embarrassés, agacés, en colère, jaloux, envieux. Bon, il y en a aussi plein, malheureusement. Donc, ce qui semble être le ratio normal, c'est la majorité, les trois quarts du temps, 60, 70, 80%, on est plutôt sur des registres émotionnels favorables. Et puis, de temps en temps, mais une minorité, on est sur des registres émotionnels moins agréables. Chez les anxieux, les gens qui ont des pathologies anxieuses, troubles anxieux généralisés, attaques de panique, personnalité anxieuse, c'est du moitié-moitié. Il y a autant de positifs que de négatifs. Chez les déprimés, majorité de ressentis négatifs et de temps en temps quand même des émotions positives, mais pas souvent, pas longtemps, et plutôt un paysage d'émotions négatives. Alors, ça c'est le bon fonctionnement. Pour autant, ce qu'on sait quand on observe le fonctionnement du cerveau, c'est que très certainement, le fait d'aller bien ne va pas forcément de soi. On est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus facile pour les humains en général d'être marqué par les événements négatifs, d'aller du côté des événements négatifs. Par exemple, quand il m'arrive un problème, je me souviens beaucoup plus facilement du problème que quand il ne m'arrive pas de problème. Et je remarque davantage les problèmes que l'absence de problème. C'est le fameux syndrome de la file d'attente. Je remarque volontiers les fois où j'ai pris la mauvaise file d'attente, sur le péage d'autoroute, à la caisse du supermarché, à la sécu, à la poste. Mais par contre, dans ces moments-là, je ne me souviens pas de toutes les fois où c'est passé tranquille, où c'est passé volontiers, etc. Lorsqu'on me fait des critiques, il me faut des toutes petites critiques pour me sentir très offensé, alors que pour les compliments, c'est l'inverse. Autrement dit, notre cerveau, spontanément et pour les raisons évolutionnistes dont je vous parlais tout à l'heure, réagit toujours plus fortement, plus durablement, plus longtemps aux éléments négatifs qu'il ne réagit en symétrie aux événements positifs. C'est pour les raisons de survie, effectivement, parce que dans la nature, il y a une hiérarchie. C'est beaucoup plus important pour un animal de ne pas rater un danger. Si je rate un danger, je suis mort. Ma vie est terminée. Si je ne fais pas attention à la présence d'un prédateur, ou d'un trou, d'un précipice, c'est fini pour moi. Je peux me permettre de rater, par contre, des opportunités ou des ressources. Ne pas manger, rater une occasion de manger, rater une occasion de boire, rater une occasion de me reposer ou d'avoir un rapport sexuel, ça peut aller, je peux tenir quelques jours comme ça. Par contre, je ne peux pas rater un seul danger. C'est pour ça que nos câblages cérébraux sont conçus pour spontanément donner beaucoup plus volontiers la priorité aux informations négatives qu'aux informations positives. C'est sans doute pour ça que la plupart des demandes que nous avons en psychothérapie, ce sont des gens qui viennent nous demander d'apprendre à ressentir plus souvent des émotions positives. C'est très rare qu'on ait des gens qui viennent nous voir pour essayer d'être plus anxieux, plus énervé, plus triste. On est tous assez bons pour nous mettre dans ces états-là. Par contre, beaucoup d'entre nous sont moins bons pour protéger, préserver, faire croître et se développer leurs émotions positives. Bon, ça, on va passer. Donc, un peu plus concrètement, quelles sont les grandes familles de stratégies qu'on peut proposer pour développer des états d'âme positifs? Mais d'abord, il y a tout simplement penser à s'accorder régulièrement dans la journée des moments agréables. Alors, certains y arrivent assez bien, mais pas mal de personnes négligent un petit peu ces moments agréables parce que ce n'est pas urgent. Vous savez, dans notre vie, on a malheureusement tendance à répondre aux urgences plutôt qu'à accorder du temps à ce qui est important. Alors, ce qui est urgent, c'est tout ce qui, si on ne le fait pas, nous vaudra des punitions. C'est urgent de réparer le robinet qui fuit, c'est urgent de faire le boulot en retard, c'est urgent de faire les courses, sinon ben, la maison sera inondée, mes collègues vont m'engueuler et la famille va hurler qu'elle meurt de faim. Donc, je passe beaucoup de temps à répondre aux urgences et du coup, je néglige des choses importantes qui ne réclame rien. C'est important de prendre du temps pour soi, de marcher dans la nature, de voir ses amis, de faire les choses qu'on aime, mais Si je ne le fais pas, c'est pas comme les urgences, il ne m'arrivera rien. Si je ne vais pas régulièrement marcher, faire du sport, voir mes amis, je ne serai pas puni dans l'immédiat. Et donc, j'ai tendance à répondre aux urgences et à négliger ce qui est important, ce qui est un tort, parce que même si ne pas faire ce qui est important ne me vaut pas de punition à court terme, ça va me carencer, me déprimer, me rendre malheureux, me faire perdre le goût de l'existence. Donc, c'est important de, si on ne va pas bien, de se poser cette question, de se dire, est-ce qu'il y a suffisamment souvent, dans la journée, dans la semaine, dans ma vie en général, des moments qui sont des moments agréables, que je me consacre, qui me sont destinés. L'autre point important, c'est évidemment d'augmenter la fréquence de ces moments, mais d'être présent à ces moments. Parce que parfois, on peut être dans des situations objectivement favorables et agréables, mais ne pas y être présent mentalement, et être pris dans nos soucis ou nos préoccupations. Donc, cet acte de présence mentale doit se superposer à la présence physique aux événements agréables. Et ça, c'est typique des difficultés que nous avons lorsque nous avons des soucis. Lorsqu'on a des soucis, on a beau être avec nos proches, avec des gens qu'on aime, dans des situations agréables, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes qu'avec notre corps, mais notre esprit n'est pas dans ces situations. Et c'est une des grandes difficultés que beaucoup de personnes ont avec le bonheur, hein, c'est la citation célèbre de Raymond Radiguet, « Bonheur, je ne t'ai reconnu qu'au bruit que tu fis en partant », c'est-à-dire je ne m'aperçois des moments heureux que quand ils ont disparu, que quand je les ai perdus. Il y a toute une branche de la psychologie positive qui insiste sur le fait d'apprendre à savourer les bons moments, de lister chaque jour tous les petits bons moments agréables et d'essayer de s'arrêter pour s'y rendre présent. Alors ça, on va passer parce que je suis un peu en retard. Troisième point, qui est le prolongement de ce que je viens de vous dire. Alors ça, c'est un peu technique, mais vous allez vite comprendre. Essayez d'inscrire justement ces moments agréables que j'ai provoqués ou sur lesquels j'ai ouvert les yeux, dont j'ai pris conscience. Essayez de les inscrire dans mes circuits cérébraux, de les faire rentrer bien profond. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, nous traitons les événements agréables et les événements désagréables différemment. En général, quand il nous arrive des problèmes, des soucis, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on va avoir tendance à les ressasser, à les ruminer. Ah, il m'est arrivé ça, comment je vais faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on m'a fait ça? Donc, on les fait tourner dans nos circuiteries cérébrales, on les fait infuser, on les ressasse, on les rumine, on les fait revenir, et on en imprègne notre esprit, ce qui fait qu'au problème suivant, clac, tous ces circuits cérébraux qu'on a bien musclés vont ressurgir, hyper musclés, encore plus, etc. C'est très important de faire la même chose avec les bons moments. Chaque fois que j'ai vécu des choses agréables, d'abord, m'y rendre présent vraiment, pas juste les regarder intellectuellement, mais être présent à ces choses-là. S'il y a un beau ciel tout à l'heure, ou si vous sortez qu'il y a un beau ciel, des belles étoiles, pas juste vous dire « Ah, il y a un beau ciel » et puis vite vous dépêchez d'aller vers votre voiture, mais peut-être vous arrêtez, respirez, regardez le ciel, savourez vraiment, faire rentrer ça dans votre corps. Ça, c'est un point très important. Et on peut aller plus loin. On a des exercices en psychologie positive qui sont très classiques et très efficaces, qui consistent à recommander très régulièrement aux personnes, lorsqu'elles s'endorment le soir, de repenser à trois moments agréables de la journée. En général, le soir, quand on s'endort, notre esprit va plus volontiers vers les projets, vers les regrets, vers les préoccupations. Et là, se dire « Ok, il ira où il veut, mais quoi qu'il te soit arrivé aujourd'hui, même si ça a été une journée dure, même si demain sera probablement une journée dure, fais un acte d'hygiène psychologique. Tout à l'heure, tu t'es brossé les dents, tu souhaitais avoir les dents propres, tu t'es brossé les dents et tu brosses les dents tous les soirs, et le matin, etc. Mais là, nettoie un peu ton cerveau, en tout cas, fais tourner tes circuits, toute ta circuiterie dédiée aux émotions positives. C'est-à-dire, repense à ta journée, sors trois bons moments. Même si c'était des petites choses, même si ce n'était pas ce qui t'a frappé, il y a forcément eu au moins trois bons moments. Un coin de ciel bleu, quelqu'un qui a été sympa avec toi, une bonne nouvelle, un article intéressant que tu as lu, une bonne blague qu'on t'a racontée. Repense à ces bons moments, fais-les revenir à ton esprit, fais-les descendre dans ton corps, respire avec ça. Quand je fais ça, c'est de la rumination positive. Et plus j'ai tendance à ruminer ce qui ne va pas spontanément, plus je dois, dans un acte, un réflexe, un effort d'équilibre, faire ce type d'exercice pour ruminer délibérément, volontairement ce qui va bien. Et peu à peu, plus je fais ça, plus je me rends capable de voir aussi ce qui va bien dans ma journée, de ne pas l'écarter pour me focaliser sur les négatifs, et de muscler mes circuits cérébraux dédiés au repérage et à la réévocation de ces histoires-là. Ça, c'est typique aussi des exercices de psychologie positive. Ça n'a l'air de rien, ça paraît un petit peu naïf, comme le brin de ficelle par rapport à la corde, ça paraît un peu léger, mais on s'en fiche. C'est, est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai essayé de le faire régulièrement? C'est ça la vraie question. Dernier point, c'est lutter contre l'habituation hédonique. L'habituation hédonique, c'est ce fonctionnement du cerveau, ce n'est pas une maladie, tout le monde fonctionne comme ça, qui fait que lorsqu'une source de bien-être ou de bonheur est présente tout le temps dans nos vies, quotidiennement, eh bien, j'ai tendance à la négliger et elle a tendance peu à peu à me procurer moins de bonheur. Par exemple, le fait de pouvoir, la plupart d'entre nous, je pense, dans cette salle, habite quelque part, en un logement. Dans ce logement, il y a de l'électricité, il y a de l'eau chaude. Tous les matins ou le soir, vous prenez votre douche avec de l'eau chaude. Est-ce que ce matin, quand vous avez pris votre douche, vous vous êtes dit, j'ai du bol d'avoir une maison, d'appartenir à une espèce animale qui a inventé l'électricité, les canalisations, les cumulus. C'est génial. Je peux me sentir heureux. Probablement pas. Moi, je ne crois pas que ce matin, j'y ai pensé. Par contre, si on retire ça, si demain matin, dans la nuit, votre cumulus, il n'y a plus d'électricité, le cumulus a explosé, là, vous ne serez pas content. Les émotions négatives, vous n'aurez pas à faire d'effort pour vous dire « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Les tests sont froides, etc. Et par contre, quand elle vous sera remise, quand l'eau chaude sera remise, vous allez savourer les premières douches et puis, à la troisième, quatrième, vous allez oublier. C'est ça l'habituation hédonique. Quand quelque chose est toujours là, on finit par oublier que c'est un bonheur, que c'est une source de bonheur. C'est pareil pour la démocratie. Est-ce que le matin, quand je me lève, je me dis j'ai du bol de vivre en démocratie? Je vis dans un pays où je peux exprimer librement mes opinions, où je peux voter pour qui je veux, où il n'y a pas la police politique qui vient à 3h du matin m'amener pour me faire des faux procès. C'est une chance inouïe. Et pourtant, on est plus prompt à rouspéter, à râler contre notre système politique et son fonctionnement qu'à nous réjouir aussi de ce qui va bien et de ce qui fonctionne bien. C'est pour ça que cet exercice, avec nos patients dans le service, on l'appelait « démocratie et douche chaude ». L'exercice démocratie et douche chaude, c'est l'exercice qui consiste à se rappeler tout ce qui fonctionne bien qu'on a tendance à oublier, malheureusement. Et l'habituation hédonique, elle obéit à cette loi qui vous est exprimée sur cette courbe. Voilà, là vous avez le niveau de bonheur, et là vous avez le temps, et à un moment donné, voilà, vous êtes à ce niveau de bonheur, et tout à coup il se passe un truc bien dans votre vie. Vous avez une promotion au boulot, vous achetez une nouvelle voiture qui est mieux, vous déménagez pour un logement plus agréable, vous changez de conjoint, vous débarrassez du vieux qui râlait tout le temps, vous en prenez un nouveau qui est toujours de bonne humeur, et vous imaginez effectivement qu'après cet événement, ça va augmenter votre bonheur pour toujours. L'habituation hédonique, eh bien, c'est ce mécanisme qui fait qu'effectivement, le nouveau boulot, la nouvelle voiture, la nouvelle maison, le nouveau conjoint nous rend plus heureux un certain temps. Et puis après, tout doucement, ça s'estompe. Sauf si, d'une part, on est plongé dans l'adversité, on va se remettre à aimer la démocratie le jour où le pays tombe dans la dictature, on va se remettre à apprécier la douche chaude le jour où on n'a plus d'eau chaude, etc. Ou bien, sauf si on fait des exercices régulièrement pour se rappeler, pour repenser délibérément, volontairement, à toutes ces bonnes choses de notre quotidien auxquelles on devient aveugle et sourd, juste parce qu'elles sont là tous les jours. Très important. Un dernier point, et puis je conclurai pour qu'on ne finisse pas à 3 heures du matin. Vous avez compris à quel point ces histoires de prise de conscience sont importantes dans la psychologie du bonheur et dans la psychologie positive. Et d'ailleurs, si on devait chercher le mécanisme ou l'effort le plus important concernant le bonheur, le bien-être, eh bien, ce serait sans doute un effort de prise de conscience. Puisque finalement, on pourrait dire que l'équation du bonheur est résumée sur ce tableau. Le bonheur, c'est du bien-être dont je prends conscience. Sans prise de conscience, il n'y a que du bien-être. Le bien-être, c'est une donnée que nous partageons, les humains, avec les animaux. Bien manger, être avec des congénères pacifiques, bienveillants, qui ne sont pas agressifs, dans des endroits où je me sens en sécurité. C'est du bien-être. Et ça peut concerner des moutons, des dindons, des cochons, des humains, voilà. Je mange bien, je vais avec des potes, l'endroit est sympa. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que du mal-être. Manger des trucs dégoûtants, avec des gens qu'on déteste, dans les endroits archi-moches. Okay. Mais les humains peuvent faire mieux que le bien-être. Ils peuvent prendre conscience de ce qui leur arrive. Ils peuvent se dire, mais vous l'avez compris à partir de tout ce qui a précédé, j'ai du bol, j'ai quand même du bol d'être là. Regarde, je mange des trucs. Bon, c'est bon ce que je suis en train de manger. Ces gens sont plutôt sympas. Cet endroit est plutôt agréable. Et à ce moment-là, je savoure. Je n'accomplis pas ces choses de manière automatique, non consciente, mais je réalise à quel point, à cet instant, même si avant ce n'était pas évident, même si après ça ne sera pas évident, mais en tout cas à cet instant, c'est OK. Je peux me sentir bien. Je peux me sentir heureux. Et finalement, le bonheur, c'est une sorte de transcendance du bien-être liée à la prise de conscience que je suis en train de vivre un petit instant plaisant, agréable, touchant, émouvant, bouleversant parfois. Il y a plein de menaces sur cette prise de conscience. Il y a une menace moderne, récente, qui est liée par exemple aux écrans. Alors les écrans, c'est un truc merveilleux, les smartphones, Internet, les plaquettes, tout ça, c'est fantastique. Sauf que on est en train de s'apercevoir que ce qui ressemble parfois au début à des progrès peut aboutir à des régressions ou à des problèmes. Les écrans, c'est exactement ça. Les écrans, c'est... Ce qu'il faut bien comprendre avec les écrans, c'est que le temps que je passe sur écran, c'est du temps que je ne passe pas ailleurs. C'est du temps de vie que je retire à d'autres activités. Les études les plus frappantes pour ça sont celles que les sociologues conduisent sur les temps d'écran familiaux. Maintenant, dans les familles, le soir, on passe beaucoup de temps sur les écrans. Les enfants, les parents, tout le monde passe du temps sur les écrans, 2-3 heures en général. Et tout le temps que je passe sur les écrans, c'est du temps retiré à deux choses vitales, le temps de sommeil et le temps d'interaction familiale. L'attention consacrée aux écrans, c'est de l'attention que je ne consacre pas à bavarder avec mes frères, mes sœurs, mes parents, mes enfants. Donc ça, c'est en train d'entraîner des destructions écologiques dans l'écosystème humain, l'écosystème familial, beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. On a une grosse erreur qui est commise avec les écrans aussi, c'est que les gens pensent que faire un jeu sur écran, aller se balader sur Facebook, etc., c'est quelque chose qui va les reposer, les détendre, les apaiser. Totalement faux. Si je veux vraiment me reposer, me détendre, m'apaiser, il vaut mieux que je me lève, que je fasse des mouvements de gym, que je me relaxe, que je médite, que je regarde le ciel, que j'aille marcher. Et ce dont on s'aperçoit deux choses. D'abord que mon ordinateur déconne un peu ce soir, et ensuite on s'aperçoit de l'autre chose.
D'écran.
On s'aperçoit que de plus en plus, nos contemporains, nous-mêmes, nos enfants, encore plus, plus on est exposé aux écrans, plus c'est ce qu'on voit, ont du mal à fixer leur attention, ont du mal à rester centrés sur ce qu'ils font. Et vagabondent de plus en plus. Or, ça a un rapport étroit avec le bonheur. Non seulement ça alterne nos performances intellectuelles, mais bon, on ne va pas en parler ce soir, mais ça altère nos capacités à être heureux. Ça, c'est une étude très intéressante, il y en a eu d'autres qui ont été faites sur le même registre, où on étudie 5000 volontaires âgés de 17 à 80 ans qui chargent sur leur smartphone un petit programme qui va sonner pendant un mois, trois fois par jour. Mais là, c'est plus compliqué que tout à l'heure. À chaque fois que ça sonne, on va vous demander trois choses. Un, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Deux, dans quel état émotionnel vous êtes? Trois, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous êtes présent? Au moment où ça a sonné, est-ce que vous étiez présent à ce que vous faisiez? Par exemple, si ça avait sonné il y a trois minutes, pendant chez chacune et chacun d'entre vous dans cette salle, vous auriez dû donner ces trois réponses. Un, qu'est-ce que vous faites? Activité académique, j'assiste à une conférence. Deux, dans quel état vous êtes émotionnellement? Voilà, soit affreux, très mal, j'aurais pas dû m'asseoir au milieu, j'ose pas partir, mais je m'ennuie beaucoup. Très bien, je me régale, c'est super, il y a de l'ambiance, ok. Trois, au moment où ça a sonné, quand ça a fait bip, est-ce que vous étiez en train d'écouter la conférence ou est-ce que vous étiez en train d'envoyer des messages sur votre smartphone, de faire la sieste, de parler aux voisins, voilà. Est-ce que vous étiez présent ou non quand ça a sonné à la situation? On relève toutes les données, on mouline tout ça et on s'aperçoit de deux trucs, deux chiffres très intéressants. Premier chiffre, dans une situation sur deux, un bip sur deux, les gens n'étaient pas présents à la situation. Ils faisaient autre chose, ils pensaient à autre chose. Deuxièmement, un des meilleurs prédicteurs de leur état de bien-être émotionnel n'était pas tant, pas seulement l'activité, mais l'attention, la présence à l'activité. Autrement dit, je pouvais très bien être en train de faire une activité de loisir ou être avec des gens que j'aimais, ma famille, le soir après le boulot, et ne pas être heureux si je n'étais pas présent à la situation, si j'étais en train de ruminer, alors que j'étais avec des copains ou en train de jouer au golf, comme le monsieur tout à l'heure, eh bien, il y avait beaucoup plus de chances que je sois malheureux alors que j'étais dans un environnement agréable. Mais par contre, si j'étais au boulot très absorbé, très concentré, il y avait beaucoup plus de chances que je sois heureux. Donc, ce genre d'études nous montre que la stabilité attentionnelle, le fait de rester centré, de ne pas être toujours dispersé, distrait, est un des facteurs qui contribue à notre bonheur, notre bien-être émotionnel. Et donc, ça veut dire que les sociétés telles que la nôtre, qui sont des sociétés qui abîment la continuité attentionnelle, on est sans arrêt soit dérangé, soit saturé de stimulations inutiles, des publicités, des musiques, des sonneries, des bruits, sont des sociétés qui abîment non seulement les capacités attentionnelles, mais aussi le bien-être émotionnel des citoyens. Alors, il faut lutter contre ça, évidemment. Donc, pour lutter, on peut tenter de résister à la tentation des écrans, donc faire des efforts, on appelle ça en psychologie des efforts d'autocontrôle, ok. On peut aussi apprendre des techniques, des méthodes. La méditation, dont vous avez peut-être entendu parler, les techniques de méditation qu'on utilise actuellement en médecine sont des techniques où on va apprendre aux gens à muscler leur capacité de stabilité attentionnelle, de contrôle des impulsions, donc ça peut les aider. On a des tas de travaux, donc montrant en fait que lorsqu'on apprend aux gens à méditer, finalement, on va indirectement élever leur niveau d'émotion positive. Pourquoi ? Parce qu'on muscle leur capacité de rester stabilisés et centrés sur ce qu'ils font. Et du coup, ils se rendent mieux compte des bonnes choses de leur vie, au lieu d'être sans arrêt en train d'être ailleurs dans leurs inquiétudes. Alors ça, on va passer. Et finalement, tous ces travaux, vous voyez, c'est souvent comme ça en matière scientifique qu'on retrouve, en tout cas en psychologie, on démontre par des recherches scientifiques des visions ou des intuitions qu'ont pu avoir des philosophes ou des romanciers. Par exemple, quand Albert Camus écrit dans sa magnifique petite nouvelle « L'envers et l'endroit », « Ça n'est plus d'être heureux que je souhaite, mais seulement d'être conscient ». Il dit exactement ce qu'on vient de montrer. Il dit finalement « Être présent et conscient à ma vie, dans tous ces instants, les instants désagréables pour mieux les affronter au lieu de chercher à les fuir, les instants agréables pour mieux les savourer au lieu de passer à côté, juste être conscient, être présent à mon existence suffira à augmenter mon bonheur et au passage ça augmentera aussi ma lucidité. » Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Pour conclure, Je ne me souviens plus, je suis désolé, mais, Monsieur Dubois, est-ce qu'on a un temps de questions après ou non? Oui, voilà. Donc pour conclure et pour vous laisser le temps de poser quelques questions, voici un peu le résumé de ce qu'on a vu ensemble. Premier point, vous avez vu qu'il était possible d'augmenter son niveau de bien-être émotionnel. Ce qu'on appelle le bien-être subjectif, c'est la façon prudente de parler du bonheur en matière scientifique. Vous avez vu aussi que l'objectif n'était pas de tout positiver, mais de viser ce fameux ratio de Losada. Losada, c'est le nom du chercheur qui, le premier, a fait les études sur ça, qui est de se dire, au fond, si je suis à 3 émotions positives pour une négative en moyenne, c'est bon, ça fonctionne à peu près. Un bon moyen pour savoir si vous êtes dans le ratio, c'est pas de vous poser la question vous-même, c'est de demander à votre conjoint ce qu'il en pense. En général, les conjoints sont très intéressants à écouter par rapport à ces histoires d'évaluation de notre équilibre personnel. Ils voient mieux que nous si on est tout le temps en train de râler ou si ça ne dépasse pas 25% du temps. Troisième point important que vous avez vu, c'est tous les avantages que nous offrent les émotions positives en termes de fonctionnement psychologique, de vision du monde, de santé, et qui justifient, donc qui expliquent pourquoi on s'y intéresse tant aujourd'hui. Et enfin, dernier point, ça c'est la médecine environnementale. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de médecine environnementale qu'avant. La médecine environnementale, c'est cette médecine qui dit « Je ne peux pas aller bien, un humain ne peut pas aller bien si mon environnement est pollué. » C'est vrai pour notre corps, ma santé physique va être altérée par les pollutions de l'eau, de l'air, des aliments. C'est vrai aussi pour notre esprit. Mon équilibre intérieur, mes capacités au bonheur peuvent être altérées par certains modes de vie, par certaines pollutions sociales, civilisation, société très matérialiste, basée sur la possession, la consommation, la compétition, mais aussi, plus insidieusement, ces invasions digitales face auxquelles on ne sait pas assez bien s'organiser, peuvent également altérer notre bien-être. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. On a un petit moment donc maintenant pour les questions. Alors je ne sais pas comment ça se passe. Merci. Voilà. Donc, il me suffit de lever la main et on va vous faire passer le micro. Alors, voilà. Donc, comme on est assez nombreux, essayez de poser des questions relativement brèves pour qu'on puisse en aborder plusieurs si possible.
Bonsoir. Voilà, j'ai découvert Dr André il y a 2 années en arrière sur YouTube avec la méditation de pleine conscience. Et je vous remercie pour ce travail. Et j'ai apporté un témoin avec moi qui pourrait dire tout le bien fou que tout ce que vous faites ont été pour moi. Voilà. Merci pour tout ça.
Merci pour votre témoignage.
Je voulais simplement savoir, dans la perspective de tout ce que vous avez présenté ce soir, comment se situe une question qui déborde de cette thématique, la question de la foi. Parce que vous, pas ce soir, mais de manière générale, on peut vous entendre parler de la foi et de l'importance du bien-être que cela peut apporter aux personnes qui vont mal.
D'accord. Alors bon, merci pour votre témoignage et puis merci pour la question donc, à laquelle je vais m'efforcer de répondre en partie au moins. Je n'ai pas parlé de tout un tas de choses, je n'ai pas parlé des liens familiaux, je n'ai pas parlé des rapports entre amour et bonheur, des rapports entre argent et bonheur, et plein de trucs qu'on n'a pas vu ce soir, mais je n'ai pas parlé non plus de la foi, de la religion, etc. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que il y a un lien, au moins statistique, entre pratique religieuse et bien-être émotionnel. Ça fonctionne sur le principe de ce qu'on appelle, dans notre jargon scientifique, des courbes en cloche. Enfin, ça monte, ça atteint un maximum, et puis ça descend. Et le rapport entre intensité du bonheur et intensité de la pratique religieuse s'inscrit dans une courbe en cloche. Autrement dit, un niveau de foi, de pratique religieuse, d'engagement religieux médian semble être un facteur facilitant, favorisant du bonheur. Trop d'engagement dans la religion, autrement dit une sorte de rigorisme, voire de fanatisme, fait baisser notre niveau de bonheur, tout comme une absence totale, un athéisme total, une absence totale de conviction religieuse, fait qu'en général, les personnes qui ont ces convictions ont un niveau de bien-être émotionnel moins élevé que les croyants modérés. En gros, la religion à dose modérée, à dose moyenne, si on peut dire, est un des facteurs, mais très nombreux, il y en a plein d'autres, mais un des facteurs qui facilite le bien-être. Deuxième point, on sait à peu près expliquer pourquoi. Dans la religion, il y a tout un tas d'aspects. Il y a d'abord le lien social. Quand on pratique une religion, en général, on appartient à un groupe au sein duquel, dont on se sent faire partie, au sein duquel on a sa place, avec qui on partage les mêmes rituels religieux, qu'on retrouve aux cérémonies religieuses, etc. Donc, le lien social est quelque chose qui facilite le bonheur. Les pratiques religieuses, en général, encouragent à des modes de vie qui vont plutôt dans le sens du bien-être. Autrement dit, encourage à des modes de vie qui, normalement, recommandent de vivre en bonne intelligence avec ses proches, de vouloir le bien de ses proches, d'avoir des bonnes relations avec eux, de respecter les humains, de respecter la nature. Et tout ça va dans le bon sens de ce qui peut nous rendre heureux. Et un des avantages aussi, des vertus des pratiques religieuses, c'est la prière, la foi, c'est-à-dire la conviction que notre existence a un sens, que tout ce qui se passe ici-bas est absurde et que nous avons un avenir qui nous attend après notre mort et qui dépend un petit peu de nous. Tout ça est plutôt rassurant. Alors les athées disent que ce sont des pures illusions, donc ce genre de bonheur basé sur des illusions, je n'en veux pas. Mais les croyants disent que c'est peut-être des illusions, mais quand même, il nous semble que ce n'est pas que ça, et qu'en tout cas, ça nous fait du bien. Quoi, voilà. Et par contre, quand on s'enfonce trop dans le rigorisme, dans l'intégrisme, là, on devient prisonnier du groupe social, au lieu de s'y épanouir, on devient prisonnier des rituels, au lieu qu'ils puissent nous alléger, ils nous enferment, etc., etc. Voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais effectivement, chaque fois que les chercheurs essaient de corréler les pratiques religieuses avec le bien-être, ils disent il y a un petit effet favorable pour ces doses médianes dont on vient de parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bonsoir. Merci pour votre conférence. J'ai vu dans Trois amis en quête de sagesse que vous expliquiez qu'avec vos patients, ils semblaient maintenant plutôt favorables de votre point de vue, de ne pas être complètement impersonnel. Vous pourriez développer un petit peu?
Oui, oui, oui. Donc le livre dont vous parlez, c'est « Trois amis en quête de sagesse » qu'on a écrit avec Mathieu Ricard, moine bouddhiste, et Alexandre Jolien, qui est philosophe. On essaie d'aborder, au fond, voilà, quelques-uns des points qui nous semblent importants pour les humains, pour aller bien et pour aider les autres à aller bien. Et le passage auquel vous faites allusion, c'est un passage sur certaines évolutions en psychothérapie, où je signale que finalement, c'est important parfois que le thérapeute, que le soignant, que la personne qui aide, ose parler d'elle, ose à certains moments dire à son patient qu'elle aussi lui arrive d'être anxieuse, ou qu'elle aussi lui est arrivé d'avoir des coups de déprime, ou de stress, etc. Pas par plaisir personnel, mais parce que c'est réconfortant. Un des problèmes qu'on a, ce n'est pas l'objet de la rencontre de ce soir, mais un des problèmes qu'on a, quand on a des difficultés psychologiques, c'est qu'on a l'impression d'être le seul en avoir, qu'on se sent dévalorisé, qu'on se sent un peu inférieur, qu'on pense qu'il y a des gens qui n'en ont jamais, etc. Ce qui est totalement faux, tout le monde a des difficultés psychologiques. Et donc, dans l'école à laquelle j'appartiens, en tout cas, on a fait des travaux, on s'est aperçu que finalement,
quand le thérapeute donnait des petites informations sur lui, ça pouvait être très aidant pour le patient, à condition qu'il respecte le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est que ces informations doivent être minoritaires dans la thérapie. La thérapie, c'est l'espace du patient. Il ne s'agit pas que le thérapeute y raconte sa vie, mais que de temps en temps, il exprime ce qu'il a pu ressentir lui-même quand le patient n'y arrive pas, ou quand le patient se sent dévalorisé par ses troubles, etc. Donc, les interventions du thérapeute, ça ressemble un peu aux ingrédients, aux épices, au sel, au poivre. Il ne faut pas que ça soit la base du plat. Ça ne peut pas être la base de la thérapie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième règle qu'on apprend à nos étudiants, c'est de dire, vous devez parler de vous, non pas quand vous en ressentez le besoin, les jours où vous êtes malheureux, vous avez envie de parler à quelqu'un, d'attraper votre patient puis vous parlez de vous, mais quand le patient en a besoin, c'est repérer les moments où ça lui ferait beaucoup de bien de savoir que vous aussi, vous avez connu de problèmes, de détresse émotionnelle, etc. Donc, c'est de ces choses-là que je parle, et j'en parle dans le livre parce que c'est relativement récent. Pendant longtemps, les thérapeutes adoptaient plutôt une position distante, où ils ne parlaient pas d'eux, ils ne donnaient pas d'éléments personnels, etc. Donc, voilà un peu l'explication de ces passages. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois des bras qui se lèvent, en tout cas. Le micro va venir jusqu'à vous, et jusqu'à certains d'entre vous. Je ne prends pas. On est bien près du micro. Il faut le mettre tout
comme ça.
Ouais. Oui. Devant vous.
Tout d'abord, merci pour toutes ces informations. Une simple question. Vous parlez de votre école. Quelle est cette école dont vous parlez?
Alors moi, j'appartiens à une école qui... Alors, les gens souvent connaissent la psychanalyse, qui est une école de thérapie. Moi, j'appartiens à l'école qui s'appelle les thérapies comportementales et cognitives, et qui est en train d'évoluer plus largement vers l'école plus humaniste. On fait aussi maintenant de la méditation, du travail sur les émotions, etc.
Et qui se trouve uniquement sur Paris ou s'il y a
d'autres... Non, c'est international. Ça vous intéresse de trouver des thérapeutes appartenant à cette école, il faut aller sur le site de leur association qui s'appelle AFTCC, Association Française Thérapie Comportementale et Cognitive. D'accord. AFTCC.org, et là, vous avez les infos.
Merci beaucoup.
Merci.
Il faut aller sur les écrans. Il faut aller sur les écrans.
Bonsoir. Merci aussi pour votre conférence. J'ai juste une petite question. J'en ai beaucoup, mais je vais peut-être me limiter à celle-ci. Que répondre à une personne qui a du mal à être heureuse par rapport à ce qui se passe dans le monde?
Oui, ça c'est... C'est une question très importante, effectivement, parce que tant qu'on n'y a pas répondu, on va se trouver entravé avec cette histoire de bonheur. C'est culpabilisant d'être heureux quand il y a des gens malheureux autour de nous, c'est clair. Puisque le bonheur, c'est une richesse, c'est sans doute la plus grande des richesses, et donc c'est être riche au milieu des pauvres, c'est quand même pas ce qu'on souhaite tous. On préférerait que tout le monde soit riche. Donc, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est de se dire, est-ce que être moins heureux rendra les autres plus heureux? Est-ce que brider mon bonheur, m'empêcher d'être heureux, améliorera le malheur du monde? On a vu que non, ça ne se passait pas comme ça, c'est-à-dire que, au contraire, le monde a besoin de gens qui vont bien. Le monde a besoin de gens heureux, puisque être heureux m'ouvre les yeux, me donne de l'énergie pour aller vers les autres, me donne de l'énergie pour aider, pour tenir bon face à l'adversité, etc. C'est très important, vous savez, c'est Paul Claudel, l'écrivain, qui a écrit « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. » Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous ne vivons pas juste pour être heureux, même si c'est un but important, mais le bonheur est un moyen pour vivre. La vie, c'est un truc très dur. On va naître, on va souffrir, on va mourir. Donc, c'est pas forcément très rigolo si on ne voit que cet aspect de la vie. Heureusement qu'entre-temps, on va avoir des moments où on sera heureux. on va voir des gens heureux autour de nous. Donc le bonheur est le moyen de la vie, ça veut dire c'est grâce au bonheur qu'on est capable d'affronter l'adversité et d'avoir l'énergie d'aider les autres. Donc le fait que le monde globalement abrite des tas d'endroits où les gens souffrent, sont malheureux, sont déchirés, connaissent la guerre, la violence, la misère, est quelque chose que nous devons continuer de regarder, même lorsque nous sommes heureux. Le bonheur n'est pas là pour nous fermer les yeux sur tout ce qui ne va pas, que ce soit dans nos vies ou autour de nous. Mais par contre, nous avons intérêt à continuer d'être heureux, de nous réjouir, pour justement pouvoir aider le plus possible les gens qui sont autour de nous, ou les gens à distance, en envoyant de l'argent, en militant dans des associations, etc. Si vous regardez toutes les personnes qui ont eu des vies de très grand altruisme, des gens comme Mère Teresa, l'abbé Pierre, etc., c'est des gens qui, de temps en temps, poussaient des coups de gueule, bien sûr, mais qui étaient profondément heureux de faire ce qu'ils faisaient, profondément heureux de porter assistance aux gens qui étaient dans la misère ou dans la détresse, ce qui ne les empêchait pas d'avoir des doutes, des coups de souffrance, des coups de déprime, comme on a eu Mère Teresa, elle l'a confié à la fin de sa vie. Mais globalement, le fait de pouvoir être dans l'action et aider les gens malheureux leur apportait beaucoup de bonheur, finalement. Donc, la réponse à cette question, c'est juste de dire que le bonheur n'est pas là pour nous cacher le malheur du monde, mais pour nous donner la force de faire notre part pour l'alléger un petit peu, que ce soit notre part quotidienne, au travers des petits malheurs que nous pouvons croiser chaque jour de notre vie, ou que ce soit, comme je le disais, à distance. Merci en tout cas, c'est une question importante.
Avez-vous connu Jacques Lacan, qui je crois officiait à l'hôpital Sainte-Anne? Et oui, voilà la question, avez-vous connu Jacques Lacan, et que pensez-vous de la psychanalyse?
Wow. On sort un peu du sujet. Alors, j'ai pas connu Lacan. Oui, Lacan a été interne à Sainte-Anne, a donné des consultations et surtout faisait son séminaire pendant assez longtemps à Sainte-Anne. Bon, on n'est pas de la même génération. Je l'ai pas connu en tout cas quand il était à Sainte-Anne. Et la psychanalyse lacanienne, c'est une psychanalyse très particulière. C'est vraiment dans les psychanalystes lacaniens sont des psychanalystes très à part. Moi, je ne suis pas fan personnellement, mais mon meilleur copain à l'hôpital Sainte-Anne est un psychanalyste lacanien. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas fan que ça ne marche pas. Mais c'est une façon de soigner un peu déconcertante à mes yeux. Voilà. Ce n'est pas compliqué de vous en dire plus. Ce n'est pas le thème de la soirée.
Bonjour. Je pense que ce sera plus simple de répondre à ma question. Qui nous fera voir le bonheur? Est-ce que vous savez que c'est le verset d'un psaume 6? Est-ce que c'est fait exprès?
Oui, oui, je savais ça. C'est en exergue de mon livre qui s'appelle « Vivre heureux, psychologie du bonheur ». Oui, j'avais mis pour montrer finalement que c'est une quête très, très ancienne. C'est pas un truc de l'époque moderne. Parfois, on me dit « oui ». Aujourd'hui, on est obsédé par le bonheur. Depuis que les hommes pensent, réfléchissent, écrivent, ils sont tournés vers le bonheur. On trouve ça dans la Bible, dans la philosophie grecque. Et même le siècle qui a produit en proportion le plus grand nombre de livres sur le bonheur, c'est pas notre siècle, c'est le 18e siècle. Par rapport à la production de volumes littéraires de l'époque, le nombre de traités sur le bonheur est impressionnant. Et vous savez pourquoi? Parce que le XVIIIe siècle est le siècle de la démocratisation du bonheur. Ça, c'est très intéressant pour les politiques. Le bonheur, c'est une vieille histoire, ça part dès l'Antiquité, mais c'est réservé aux élites. Dans la Grèce antique, dans la Rome antique, ceux qui peuvent prétendre au bonheur sont les hommes libres, les patriciens, mais les esclaves, les étrangers, les, voilà, tout cela est trime. Ils n'ont pas le bonheur pur but. Après, le christianisme arrive. Là, je vous parle de l'Occident. Pour les autres cultures, je ne connais pas. Le christianisme arrive et le christianisme change ce discours sur le bonheur. Il dit tout à coup, laissez tomber le bonheur, occupez-vous plutôt de votre salut. La question du salut passe devant celle du bonheur. On dit en gros, vous occupez pas d'un petit bonheur fugitif, transitoire et minable ici-bas. Oubliez ça. Essayez plutôt de mériter de connaître un grand bonheur immense et éternel dans l'au-delà en vous comportant en bon chrétien. Donc le bonheur est moins une préoccupation quotidienne pour les Européens en tout cas. Et puis le XVIIIe siècle arrive, qui est le siècle des grandes révolutions, notamment aux États-Unis et en France. Et la révolution américaine comme la révolution française accordent beaucoup d'importance au bonheur. Par exemple, dans la première déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, les trois droits fondamentaux que cette constitution accorde à tout être humain, quel qu'il soit, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté. Nul n'a le droit de prendre ma vie, nul n'a le droit de prendre ma liberté sans bonne raison, hein, si on est en prison, et le droit non pas au bonheur, mais à la poursuite du bonheur. Autrement dit, le boulot des politiques, ce n'est pas de rendre les citoyens heureux, ça regarde chacun d'entre nous, c'est une démarche individuelle, mais de créer les conditions pour qu'ils puissent chercher à se rendre heureux, donc de créer les conditions de sécurité, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et là-dedans, dans ce bain démocratique, chaque citoyen peut s'atteler ou non, si ça l'intéresse pas, il n'est pas obligé, à la recherche de son bonheur. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'en fait, ce XVIIIe siècle est le siècle où, finalement, les politiques décident que tout le monde a droit au bonheur, pas seulement les privilégiés, les chanceux, les vermis, les nantis, mais chaque citoyen peut prétendre à travailler à son bonheur. Et le rôle des gouvernements, des démocraties, des politiques, c'est de créer les conditions qui en permettent l'émergence. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant et très important historiquement. On va peut-être prendre une dernière question, puis après je vais vous libérer parce que l'heure passe.
Tout d'abord, merci pour cette superbe conférence. Je vais revenir sur l'expérience de récupération après le stresseur. Je résume, mais la conclusion, c'est face à une émotion négative, on peut faire l'effort de redéclencher une émotion positive derrière. Et je voulais savoir ce que vous pensiez des thérapies de l'acceptation, qui sont un peu en contre-courant, de dire au contraire, il ne faut pas se distraire et accepter l'émotion négative.
Oui, c'est très important, c'est un peu technique. Ce qu'on appelle les thérapies d'acceptation et d'engagement, c'est tout un nouveau courant actuellement en psychothérapie qui en gros dit que beaucoup de nos souffrances viennent de ce qu'on ne les accepte pas. Et que assez souvent, quand quelque chose nous fait souffrir, une mauvaise nouvelle, un conflit avec quelqu'un, etc., on commet deux erreurs. Soit de vouloir passer à autre chose, par exemple, je me dispute avec quelqu'un au téléphone, je raccroche et j'essaie de plus y penser. Donc je vais boire de la bière, je vais allumer la télé ou je me remets à travailler comme un fou. J'ai pas accepté l'inconfort émotionnel lié à cette situation et j'essaie de la refouler, de la chasser. Ça peut marcher parfois pour des petits stress à court terme, mais c'est pas globalement une bonne idée parce qu'en fait j'ai rien résolu. L'autre erreur, c'est de ruminer, de minoyer, de repenser au truc, en me noyant dans ce qu'on appelle la rumination. La rumination, c'est on tourne en boucle en se posant des questions insolubles. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va s'en sortir? Ce que proposent les thérapies d'acceptation, c'est d'accepter de rentrer dans le problème. Par exemple, je viens de me disputer, je raccroche, et là je me dis, ok, arrête-toi, qu'est-ce qui se passe? Respire, d'abord vois dans quel état tu es physiquement, qu'est-ce que ça donne dans ton corps, comment cet événement s'est traduit dans ton corps, accepte que ça soit là, ne cherche pas à le faire passer tout de suite, observe ce qui se passe dans ton esprit, quelles sont les pensées que tu tournes, vers quelles idées ça te fait aller, vers quelles intentions, vers quelles décisions, vers quelles impulsions. Accepte d'abord de rester avec tout ça. C'est ça l'acceptation. C'est pas la soumission ou le fait de ne rien faire. C'est de dire au fond, je ne pourrai régler un problème que quand j'aurai pleinement accepté de ressentir la manière dont il m'habite, dont il imprègne mon corps, dont il imprègne mon esprit, vers quoi il me pousse. Et donc l'acceptation, c'est un temps préalable. Ça n'est pas renoncer à l'action sur le problème, c'est d'abord se poser, en prendre compte et voir quel impact il a sur nous avant de décider. Ce n'est pas accepter au lieu d'agir, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas démissionner, c'est dire c'est comme ça. Et en gros, on a une formule qui dit l'acceptation, ça n'est pas dire c'est bien, chouette, j'ai un problème, chouette, je souffre, chouette, on s'est engueulé. Ce n'est pas ça, accepter une souffrance. Ce n'est pas dire c'est bien, mais de dire c'est là. Ce conflit est là, il me met dans tel état, il me fait avoir telle pensée, donc j'habite ce truc, j'accepte que ça soit là, je l'observe, je passe un moment avec ça avant de décider quoi faire, plutôt que d'essayer de le fuir, que de ressasser, ou que d'avoir des actes impulsifs, d'aller voir la personne, lui casser la figure, etc. Et c'est un truc assez compliqué, l'acceptation, parce que quand on dit aux gens que le meilleur moyen de traverser ces souffrances, c'est de commencer par les accepter, pas du tout envie. Au fond, comme un thérapeute nous dit, souvent l'acceptation est une bonne solution, plutôt que la lutte, l'opposition, le déni, la fuite. Mais en fait, assez souvent, s'arrêter, ressentir, accepter que le problème soit là, est le meilleur moyen pour arriver à s'en sortir. On a une petite métaphore pour faire passer ça aux patients. On leur dit, vous ne pouvez pas quitter un endroit où vous n'êtes jamais arrivé. Vous ne pouvez pas partir d'un endroit vous n'êtes jamais arrivé. Je ne peux jamais me débarrasser d'une souffrance si je ne m'y suis pas vraiment plongé. Mais si plongé, ce n'est pas la ressasser, c'est-à-dire je suis malheureux, c'est affreux, pourquoi on m'a dit ça? C'est juste se dire, observe les conséquences de cette situation sur toi. Et c'est pour ça que ces thérapies d'acceptation sont souvent couplées aux techniques de méditation, parce que dans la méditation, on se rend présent à ce qui se passe en nous pour mieux observer tous les rouages de ce qui se passe psychologiquement, physiquement, émotionnellement, et mieux décider de ce qu'on fait avec tout ça. Voilà. Désolé, c'est un peu technique, mais c'est vrai que ce sont des perspectives assez passionnantes pour nous actuellement en psychothérapie. Une dernière fois, merci beaucoup pour votre présence, votre invitation, votre écoute. C'était très amusant pour moi, j'espère que ça aura été perdu.
C'est un coup de bien. Oui, monsieur.